get up out of bed and wave to my homegirls. Hey, Bobby.
Hey.
She's so cool. All dolled up, just playing chess by the pool. Come on, we got important things to do. It's her and her.
Dans l'univers rose bonbon de Barbie, tout est super génial. On peut défier les lois de la gravité en sautant en robe parachute, on y claque ses meilleurs chorés dans des fiestas du tonnerre, entre Barbie. Bref, life in plastic is fantastic. Mais tout va voler en éclats dans cette ambiance si parfaite quand un jour, en pleine danse endiablée, Margot Barbie balance le M-word. Je parle bien entendu de la mort, un mot tabou dans ce monde de paillettes. Et ça ne s'arrête pas là. Car Barbie va subir d'autres changements inquiétants, comme l'eau froide de sa douche, une chute du toit, mais surtout, elle attrape les pieds plats, ce qui effraie toutes ses copines Barbie. Serait-elle bretonne ?
Barbie New.
Pendant ce temps-là, dans le monde gris des vrais hommes, un drame se présage. Au sein d'une base, tout le monde s'active pour répondre à une urgence nationale, Barbie a les pieds plats. Et un certain Oppenheimer a la solution. A la solution ? Oui. Construire et faire péter une bombe. Ne cherchez pas à comprendre, c'est de la physique. Barbie, quant à elle, dans son monde rose bonbon, rend visite à Barbie Morpheus, celle-là même qui s'est battue et a perdu contre une attaque de Stabilo. Elle propose un choix à Margot Barbie. Choisis la chaussure à talons roses et tout s'arrête. Choisis la sandale Birkenstock, tu restes au pays des merveilles et on descend ensemble avec le lapin blanc. Au fond du gouffre. Ce dernier choix est celui qu'elle va faire et la voilà propulsée dans le monde réel de la vraie réalité. Ce même monde gris nucléaire dans lequel une course contre les nazis est amorcée. Qui sera le premier à créer la bombe ? Qui réglera le problème des pieds plats de Barbie ? Il faut mettre toutes les chances du côté américain, les gentils du film. Et pour cela, il faut se cacher dans une base secrète au milieu du désert et recruter les meilleurs. Et seul, Matt Damon est capable de monter une véritable team d'Avengers scientifiques comme Christian Clavier, par exemple. Oui. Bref, d'un côté, une bombe se construit et de l'autre, une bombe se déconstruit. Car Barbie est confrontée à ses créateurs, les agents Smith en costard de chez Mattel qui ne cherchent qu'à l'attraper. Et dans le gris nucléaire d'Oppenheimer, on doute. On doute car ça pourrait être dangereux cette histoire de bombe, non ? Est-ce que ça réglera les pieds plats ou bien est-ce que ça les réduira en cendres comme tous les autres pieds du monde ? C'est le vertige scientifique. Bref, si vous détestez Barbie, cet épisode est fait pour vous. Si vous détestez Oppenheimer, cet épisode est fait pour vous. Et vous savez quoi ? Si vous les aimez, cet épisode est fait pour vous. Mais sachez une chose, comme le dit Denis, à la fin, il n'en restera qu'un. Ou une, on verra. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée après cette fête des films avec le versus BA du film de Greta Gerwig d'un côté et celui de Christopher Nolan de l'autre, le tout opéré dans notre épisode numéro 115. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai, douille ou pas douille, nos avis, ceux de la presse, et surtout, qui sortira grand vainqueur de cet improbable duel ? C'est parti pour le match retour de Barbie versus Oppenheimer.
DJ, keep that shit !
Ça te fait mal quand on te tire dessus ?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant ? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui ? T'intéresses à quoi, toi ? Est-ce que t'en as de la considération ?
Tu déconnes, non ? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul !
Bonjour et bienvenue dans le match retour de Barbie contre Oppenheimer.
Il fait un AVC.
Un combat entre les deux réals Greta Gerwig et Christopher Nolan. Après cette battue, avec nos teams respectives autour de leur BA, sont avec moi autour de la table pour revenir en délibération sur ces films. La team Barbie, d'un côté, Clémence qui est là.
Yeah, Barbie Power.
Johanna aussi qui est là.
Salut.
Clément aussi qui est là.
Yeah.
Voilà, vous représentez tous trois la team Barbie dans l'épisode BA. Et la team Oppenheimer, Martin.
Oui, bonjour, je suis bien présent.
Bonjour Martin, moi-même, qui suis là aussi, bonjour à tous.
Bonjour à toi.
Bonjour Romain.
Et Kevin, hein, qui est en fait un traître, rappelons-le.
Bonjour, cet épisode ça va être de la bombe.
Qui était un agent double tout droit venu de Barbieland pour tous nous ken.
C'était Alan.
Je suis Alan.
C'était le Alan, voilà.
C'est moi,
ça.
Le seul et l'unique.
Alors, voilà, c'était nos teams respectives dans l'épisode BRB qui marche bien. Merci à tous les auditeurs, auditrices. Hein. C'est un épisode, voilà, c'était un petit test, mais qui fonctionne très bien au niveau écoute. Donc, ça fait plaisir, comme on dit dans le sud-ouest. Les spoils, bon, on va préciser que d'un côté comme de l'autre, 100%, hein, 100% rose bonbon, 100% boum boum bam bam, gris nucléaire, ça va y aller. Donc, si vous n'avez pas vu les films, bah déjà, j'imagine que vous n'êtes pas là, donc je parle dans le vide.
Hein. Ouais, y a un concept, hein. C'est vertigineux ce qui se passe là.
Si vous écoutez pas le podcast, c'est pareil.
Oui, ouais, ça va être 100% spoiler, donc bah, on vous prévient, hein, voilà, vos risques et périls. On va tout divulgâcher, plus ou moins, enfin, du moins ce dont on se souvient.
On vous dira si la bombe elle pète ou pas.
Ah, ça.
Et où?
Ah.
Indice. Au Japon.
Ok. Comment on va s'organiser? Alors, on va essayer de faire ça un peu en mode versus, comme on avait fait pour la BA. On va choisir avec la roue de la chance. Vous savez, la roue de la chance, c'est ce qui détermine.
Oui.
Parce que bon, notre histoire imaginée en mode croisé. Évidemment, vous avez bien compris qu'Oppenheimer s'est pas battu pour savoir qui aura les pieds plats de chez Barbie ou pas.
Ouais, mais j'aurais aimé que ce film existe.
Écoute, les internautes ont déjà fait des bandes annonces mélangées et tout, et ça donne des trucs plutôt pas mal. Je vous invite à les regarder sur YouTube. Ils ont mélangé le monde de Barbie chez Oppenheimer et vice versa. C'est vrai que c'était le grand duel, hein, mais tout Internet s'était emparé de ça, quoi.
Ouais, clairement.
C'était, y avait plein de montages et tout, c'était très drôle à voir. Et on a bien saisi l'opportunité. La preuve, c'est que notre épisode marche bien et on est content. Et je l'ai déjà dit. Et on va se lancer du coup dans le vrai résumé de la vraie réalité, des vraies histoires, de ces vrais scénarios, de ces vrais films, de ces vrais réalisateurs, du vrai cinéma. Châtelet-Léal, rappelons-le, qui est le plus grand cinéma du monde.
Plus fréquenté. Plus fréquenté.
Plus fréquenté. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est
bah attention, que... punaise de lit dans la salle 10.
Oui,
j'ai vu les trucs.
Non,
dans la salle 10.
Salle 10, punaise de lit.
Alerte. Ah ouais,
oui.
Ah, j'y étais il y a pas longtemps.
Eh bah... J'en ai jamais vu. Ça ressemble à quoi des punaises de lit?
C'est bah comme tu... des punaises normales, quand... mais...
Mon Dieu, que tu es innocente.
Qui dorme.
Qui dorme.
Disons que... Tant mieux, je suis très contente d'être
je
innocente.
Je te souhaite de ne jamais en voir.
Ouais, disons que quand on a chez toi, tu le sais.
Des punaises qui sont allongées, tout simplement.
J'ai perdu le film.
Punaise.
On allait faire le vrai résumé.
Voilà, je vais choisir, du coup, on va lancer deux fois la roue de la chance.
Mais non, deux fois.
Ouais.
La double roue de la chance.
Qui va résumer Barbie? C'est parti déjà pour commencer. On lance.
Je lance le premier round. Clément! Oh putain, tu fais chier.
Ah, il est là, le
calculateur.
Je savais pas qu'il était là.
Ouais, tu sais, il adore la roue de la chance.
Et qui résumera, du coup, la team Oppenheimer, enfin le film Oppenheimer?
Eh ben, encore Clément, ce serait drôle.
Ce serait marrant, mais je l'enlève quand même.
On enlève. Kevin!
Ouais!
Eh ben, écoutez, je tiens à dire quand même que je n'aurais toujours pas fait mon premier résumé.
Putain, mais ça, c'est fou, cette roue.
Je suis passé
vraiment...
entre les gouttes à chaque fois.
C'est vrai.
Funaise,
les gouttes
funaise.
De la chance.
Quel est ton secret, Martin?
Je pourrais le révéler au dernier épisode.
J'ai hacké l'ordinateur de Romain grâce au DDoS.
À chaque fois, il me donne des sous.
Bon, chez Barbie.
Chez Barbie. Eh bien, Barbie, tout va bien chez Barbie au début du film. Elle est dans sa maison parfaite, sa vie parfaite. Elle va à la plage, elle fait la fête avec ses amis, elle danse. Et puis, le lendemain... arrive plein de petits dysfonctionnements. Tout d'un coup, l'eau est froide, elle n'arrive pas à prendre son petit déj. Et le soir,
c'est une gueule de bois,
elle pense
vérité.
À la mort. Tout d'un coup, elle a des idées. Je ne sais plus comment ils ont appelé ça. Idées Barbie, idées morbides, un truc comme ça. Et du coup, elle a une espèce de dysfonctionnement. Elle est cassée, elle est broken. Ses pieds deviennent plats. Et il faut qu'elle aille voir la Barbie starbée, là. Je ne sais plus comment. Weird Barbie. Weird Barbie lui dit qu'il faut qu'elle aille dans le monde réel. Parce que si elle ne va pas bien, c'est probablement parce que la petite fille qui joue avec elle... à ce moment-là, a elle-même des doutes ou est triste et l'a transmis à sa Barbie. Donc, il faut qu'elle aille dans le monde réel pour retrouver sa jeune fille.
Oppenheimer. On va croiser comme ça.
Alors,
ça
pendant ce temps, Robert Oppenheimer est un scientifique très doué en théorie, dans mais pas temps. Très doué avec ses mains. Il est un peu maladroit, ce qui lui vaut d'être un peu moqué par son professeur qu'il tente de tuer.
Avec les pommes.
Néanmoins, il se fait repérer grâce à son talent théorique et qu'est-ce qui se passe, dans quel ordre j'ai oublié, mais en tout cas il finit par mener en tout cas le centre
il va à la fac,
il devient prof à la fac et puis après il est désigné par l'armée pour s'occuper de Fort Alamo, je sais plus comment ça s'appelle, pour créer la bombe atomique pour
Los
contrer
Alamos.
Les nazis.
Il y a des historiens qui sont en train de se tirer une balle là.
c'est clair.
Fort à l'amour.
Fort à l'amour.
Oppenheimer à Fort à l'amour.
Mais c'est un nom comme ça, arrêtez.
C'est à l'amour.
Contre Clovis dans et Charlemagne.
Voilà, s'ensuit alors une course contre la montre pour faire la bombe avant les nazis.
Chez Barbie.
Barbie part donc dans le monde réel à la recherche de la petite fille qui joue avec elle. Et quand elle prend sa magnifique voiture rose, elle découvre que dans le coffre, il y avait Ken qui s'était infiltré dans le coffre. Et si, je te jure. Et donc, contrainte et forcée, elle va devoir voyager avec lui dans le monde réel. Dans le monde réel, qu'est-ce qui se passe? Elle essaye d'aller chez Mattel. Non, elle essaye de retrouver la petite fille qui joue avec elle. Elle retrouve cette petite fille, mais cette petite fille s'en fout complètement des Barbie parce que c'est devenu une ado gothique un peu chiante. Et qu'elle ne joue plus avec Barbie et qu'elle dénonce l'aspect sexiste de Barbie et le fait que ça force à avoir des représentations parfaites des femmes, etc. Bref, elle n'aime plus Barbie. Donc, quand elle apprend ça et qu'elle est très triste, elle veut aller chez Mattel pour parler à un responsable, en gros. Et donc, elle essaie de trouver le PDG de Mattel. Et pendant ce temps, Ken, lui, a un objectif complètement différent. Il veut apprendre le patriarcat. Et il y arrive en trouvant des bouquins sur les chevaux et le patriarcat. Et donc, tous les deux arrivent à aller chez Mattel et je ne sais plus comment, mais ils retournent à Barbieland parce qu'en fait, le problème ne vient pas de la petite fille. De la mère de la petite fille qui jouait à
qui
la Barbie.
Qui a rejoué
ça,
avec la Barbie.
C'est un peu pas très clair ce que je dis. Mais...
Non, surtout que Barbie, dans le monde réel, elle s'est rendue compte qu'elle aimait bien aussi, elle avait une sensibilité vis-à-vis du monde réel et quand ils veulent la remettre dans sa boîte et dire rien ne change et tout, machin, elle se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça, donc elle s'enfuit.
Elle s'enfuit, mais pourquoi exactement elle retourne à Barbieland,
parce qu'elles sont poursuivies par les gars de Mattel qui veulent absolument l'enfermer, qui veulent préserver eux ce qu'ils ont créé. Parce que en fait, ce que t'as pas dit, c'est que l'impact de chez Barbieland où tout va bien, ça favorise les hommes patriarcaux,
les fils d'up,
quoi, les fils d'up de notre monde réel. Et donc du coup,
mondes sont interconnectés et ont des conséquences l'un sur l'autre. Donc tout ce petit monde retourne à Barbieland. Et quand Barbie retourne à Barbieland, elle découvre que Ken a mis en place le patriarcat qu'il a appris dans les livres.
Et oui.
Pendant ce temps-là.
Et le point commun entre Barbie et Oppenheimer, c'est qu'ils n'aiment pas trop le capitalisme parce qu'Oppenheimer est communiste, figurez-vous, mais pas vraiment parce qu'il n'a pas signé au parti. Est-ce qu'il va lui valoir des problèmes parce que la narration est éclatée? Alors dans le temps presque
pas au sol, éclatée.
Presque dans le temps presque présent, Oppenheimer mène les recherches avec plein de scientifiques pour faire la bombe et contrer les nazis. Dans le passé, on voit qu'il était un peu communiste. Dans le futur, mais pas vraiment le futur parce que c'est le passé de notre époque, il y a quand même un procès qui est en fait un coup monté pour le décrédibiliser. Parce que l'inventeur du gin, Lewis Strauss,
pas d'alcool,
est très mécontent parce qu'il a été humilié par Oppenheimer qui n'a pas voulu en gros être le chef de son département scientifique. Il est humilié pour je ne sais plus trop quoi, ça j'avoue, j'ai pas compris.
Excusez-moi tous, d'ailleurs, je voulais dire, est-ce que quelqu'un a compris la vanne qui fait que le mec s'est senti humilié? Parce que j'ai essayé de comprendre pendant tout le film et j'ai pas compris.
Avec du lait, de la bière.
C'est que Lewis Strauss, il émet une théorie sur les isotopes et Oppenheimer. Et Oppenheimer, il fait une blague avec du lait et de la bière là-dessus et ça l'humilie. Mais j'ai pas compris la vanne.
Il dit les isotopes, c'est pas top.
S'il y avait seulement ça que j'ai pas compris. Enfin, bon, bref, vas-y, Kevin, continue.
Donc voilà. Donc le film après prend le tournure d'un thriller politique sur comment Oppenheimer a été, enfin la tentative de décrédibilisation de Oppenheimer pour justement créer la bombe H du côté du gouvernement américain, alors qu'Oppenheimer, après avoir créé la bombe A et connaissant les conséquences d'une telle invention, est plutôt du côté de se dire peut-être qu'il faut qu'on arrête les conneries des enfants.
Et pour finir chez Barbie, enfin on va terminer Barbie.
Les conneries les enfants, Ken est en plein dedans. Puisqu'il a installé le patriarcat à Barbieland, donc c'est devenu une espèce de gros truc où les femmes sont des servantes. Un nid de beauf et où les femmes ont été complètement lobotomisées par le patriarcat. Et du coup, Barbie, aidée de la petite fille et de la mère, décide de délobotomiser les femmes. Et donc, une par une, elle arrive à regagner chaque Barbie. Et les Barbies, à la fin, renversent le patriarcat. Les hommes se battent... Avec un plan en trois étapes, dont je ne me rappelle plus. Et les hommes se battent entre eux à coups de fléchettes en plastique et de ballons de plage. Et à la fin, il est convenu que le matriarcat, c'est quand même mieux. Et que les hommes, il ne faut pas trop qu'ils soient... qui ouvrent trop leur gueule parce que c'est quand même un peu des connards. Et
quoi,
prise de position.
C'est clair, bah, c'est pas tout à fait ça quand même.
Bah si, mais bah si, puisqu'il demande un poste à la fin et elle lui donne pas, mais elle a raison.
Elle lui dit dormir dehors aussi. Ouais,
en gros, il y a l'idée que on peut vivre ensemble dans cette société, mais que les hommes ont quand même beaucoup de choses à se faire pardonner et à apprendre, et qu'il faut renverser un petit peu l'ordre établi.
Et elle devient humaine.
Et elle, oui, et Barbie à la fin, donc celle qui est Barbie, comment elle l'appelle, stéréotypical Barbie, donc Margot Robbie, décide à la fin qu'elle a plus envie d'être une Barbie et qu'elle veut devenir humaine, ce que la créatrice de Barbie approuve et lui permet de faire.
Elle lui dit qu'elle a pas besoin d'approbation.
Oui, elle a pas besoin d'approbation parce qu'elle est libre. Et donc à la fin, elle devient humaine et voilà.
Et Kevin, pour terminer Oppenheimer, boum boum.
Ouais, pour terminer, ils font péter la bombe et puis Oppenheimer se rend compte que c'était quand même pas une très bonne idée parce que c'est quand même très dangereux, ça tue des gens en fait, les bombes, il l'a capté après. Mais c'est pas grave parce qu'il a quand même réussi à baiser Robert Downey Jr. Et c'est pas grave parce qu'il a aussi baisé plein de meufs. Voilà.
Parce que tu oublies quoi. C'est pas à lui que je pensais en premier quoi.
Je suis allé à Berkeley pour ça moi.
Il a grave kiffé. Et puis après, bon, il a peut-être inventé la bombe. Ah, mais au fond, c'est un mec sympa.
Oui, parce qu'il a pas inventé la hache, et ça c'est bien.
Ouais.
Bah, la hache, bah, une bombe c'est plus fort qu'une hache. C'est plus les Indiens c'est avec leur tomahawk qui étaient niveau hache. Enfin, voilà, voilà. Voilà. Bon, on a tenté le versus à ne plus jamais reproduire, hein, je vous dis.
Ça m'a complètement embrouillé.
Ouais. C'était très dur.
Donc, j'espère que vous avez suivi. C'était peut-être pas forcément la bonne idée, surtout qu'on n'avait pas répété avant, alors qu'on répète toujours avant.
Bien sûr. Ouais.
Il y a toujours une première version du podcast, et ensuite on enregistre.
Vous savez pas, voilà, un peu les coulisses. La séquence suivante, moi j'ai oublié tout ça là, c'est quoi après?
Bah douille ou pas douille.
Bah oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe avec le douille ou pas douille? Je te laisse nous le dire Clémence.
Eh bien, je sais plus.
Eh ben, écoute.
On compare la BA.
Elle est pas mal là.
Oui, et on dit si la BA nous a douillé ou pas.
Allez.
Douille, 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 pas douille.
C'était une douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était pas une douille.
On compare la BA, donc du coup les BA, parce qu'il y en avait deux, aux deux films qu'on a vus. 5 heures au cinéma quand même, hein, faut le rappeler.
Ouais, j'avoue.
Ouais.
On a passé 5 heures au cinéma pour ces deux films, étant donné qu'Oppenheimer dure 3 heures et quelques, et Barbie 2 heures. Le douille ou pas douille, on va commencer par Barbie, on va pas changer d'ordre. Barbie tour de table, Barbie douille ou pas douille. Une BA qui, je le rappelle, avait été quand même plutôt bien accueillie, étant donné que Kevin est un traître. Ça fait 4 voix contre 3.
C'est un espion soviétique.
Enfin, 4 contre 2. Clémence.
Eh ben, c'est pas douille, hein. On l'avait dit. Hein. C'est. Je sais pas quoi. Le film, il est exactement comme la BA le laissait imaginer. C'est-à-dire qu'il est absolument pas premier degré. Plein d'humour. Avec un vrai discours. Voilà. Enfin, après, je développerai mon avis. Mais c'était à la hauteur de mes attentes, de ma hype. Et j'ai passé un excellent moment.
Kevin, douille ou pas douille?
Moi, pas douille non plus. C'est le film que je m'attendais à voir, c'est-à-dire un film qui était plus malin, qui le laissait présager, mais qui reste quand même très mercantile, il ne faut pas se le cacher, mais qui le fait de manière assez intelligente, je trouve.
Clément, douille ou pas douille?
Moi, je dirais douille positive parce que je trouve que la BA, au final, ne montrait pas les vrais enjeux du film. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit vraiment cette lutte contre le patriarcat symbolisée par Ken. On aurait dit que Ken, c'était juste un espèce d'allié un peu stupide. Et en fait, non, il endosse carrément la fonction des hommes qui sont toxiques dans la société. Et ça, je ne m'y attendais pas. Et je ne m'attendais pas non plus à ce que ça revienne à Barbie Land. Je pensais que ça allait rester dans le monde réel jusqu'à la fin. Et c'était plutôt une très bonne surprise au niveau scénaristique. Et il y avait aussi beaucoup de vannes qui n'étaient pas dans la BA. Le film est hyper drôle. Donc, je dirais douille positive.
Martin, douille ou pas douille?
Bah écoute, pas douille. Film, j'étais pas méga hypé par. Enfin, j'étais intrigué par la BA quand même. Et pas douille dans le sens où le film est vraiment fidèle à la bande-annonce. Et même, pour moi, c'est un des principaux griefs. Un peu trop fidèle, contrairement à ce que disait notre ami.
Trop de roses, peut-être. Je sais pas, je parle à sa place. Johanna, douille ou pas douille?
Pas douille, j'étais hypé par la BA. Je suis hypé par ce que j'ai vu.
Et toi, Romain, douille ou pas douille?
C'est un douille, mais positif, les amis.
Oh, oula,
oh, suspect.
Oh, very twisty.
Les étoiles, les fleurs roses qui volent.
C'est un douille positif parce que oui, en fait, la BA me laissait entendre justement qu'on était encore sur ce trope de poisson hors du bocal, comme on a pu le voir dans nombreux films, et notamment notre référence était Lego, hein, qui est en plus la même firme, et c'est Warner, et ça vend des jouets, c'est pareil que pour Barbie. Sauf que là, oui, il y a le retour à Barbieland. Et en fait, moi, c'est ça que j'espérais et qui me décevait dans la BA, c'est qu'on avait l'impression qu'elle sortait du monde et qu'ensuite, elle devait apprendre dans le monde réel les vraies valeurs. Et en fait, non, il y a un retour à Barbieland qui est très intéressant parce que le monde réel, en fait, on l'explore quoi, pendant 20 minutes, un truc comme ça. C'est pas beaucoup dans le film. Et en fait, on passe beaucoup plus de temps dans ces décors qui sont super. Et voilà, c'est là que tout se passe. Et donc, c'est très cool parce que ça laisse à Greta Gerwig notamment la chance d'écrire intelligemment et de démonter l'image de Barbie, parce que on rentre dans la critique directe parce que sinon je vais avoir du mal à...
Vas-y, vas-y.
Depuis 2016, en fait, il faut savoir que Mattel est rentré dans le, on va dire, dans une ligne médiatique progressiste, hein, notamment en refaisant des Barbie aux normes, on va dire, aux normes de notre monde, c'est-à-dire que Barbie, en fait, elle a un physique impossible. C'est ce qui avait longtemps été reproché. Et à la suite de ventes un peu catastrophiques début 2010 et à beaucoup de polémiques qui s'en suivaient, on va pas refaire tout le discours, il y a plein de sujets qui en parlent sur Internet, mais en gros, ils avaient remodelé un peu l'image de Barbie et ce film-là continue dans sa transmédialité, dans ce progressisme-là que Mattel s'est instauré. Et c'est intéressant parce que Greta Gerwig était peut-être la mieux placée pour en parler parce que c'est une représentante féministe au cinéma depuis qu'elle est passée derrière la caméra et même avant, hein, j'ai envie de dire, quand elle était actrice chez Noah Baumbach, par exemple. Et donc, c'est très, très, très intéressant. Et ça, j'ai bien aimé parce que ça laisse, le décor de Barbie laisse une liberté de mise en scène que Greta adopte totalement. Et ça, j'ai adoré ce côté carton-pâte et tout. Moi, c'est vraiment ce que je kiffe dans le cinéma, c'est quand on prend des risques, et c'est un film qui prend beaucoup de risques, mais sans trop se mouiller non plus, parce qu'il ne faut pas oublier que les produits derrière tout ça, c'est peut-être nous, et qu'on assiste quand même à une pub de 2 heures. On ne va pas se mentir, c'est sûr que c'est bien fait, c'est plus intelligent que d'autres films comme Transformers, ou pour la marque Hasbro, ou G.I. Joe par exemple, qui s'appuyait juste sur le lore instauré par les jouets et tout, etc. Là, c'est un propos féministe, donc on est dans ce progressisme-là de Mattel qui souhaite redorer leur blason, mais dans le but de vendre aussi quand même, hein, parce que cette place, on l'a achetée et tout, etc. Donc c'est une pub énorme, mais moi, ça me... Voilà, j'ai un peu de problème avec tout ce côté marketing-là, qui me laisse un peu... qui m'a fait un peu retomber à la suite de mon visionnage, même si j'avoue avoir passé quand même un très bon moment. Kevin, je te laisse rebondir sur ce que je viens de
dire. Oui, je voulais rebondir là-dessus, parce que moi, justement, je trouve que c'est vraiment le point positif. C'est que, évidemment, c'est un film Barbie, forcément, y a des enjeux marketing derrière, et forcément, Mattel, ils veulent vendre des poupées. Et là où je trouve que c'est intelligent comme film, c'est que Greta Gerwig, elle est consciente de ce truc-là, et malgré tout, elle arrive à retourner le truc et à s'en servir pour faire passer son message. Et je trouve que c'est assez malin, parce que l'équilibre est très bien fait, et certes, ça va faire vendre des Barbie, peut-être que le but de base, c'est d'en vendre, et que c'est un peu, du point de vue de la marque, de mettre un peu de la poudre aux yeux. Néanmoins, ça fait un bon vecteur de communication pour les idées. Si justement ça doit passer par ce biais-là, bah, je trouve que c'est quand même pas mal, quoi. C'est un bon moyen de le faire.
Je rebondis, mais juste, moi, ce qui me fait peur, je suis d'accord avec toi, je suis évidemment d'accord, parce que c'est vrai que le film est dans ses propos féministes, et le fait de nous ouvrir les yeux sur notre société via un modèle aussi iconique que Barbie, qui a longtemps été polémiqué justement par les complexes qu'elle pouvait amener chez les jeunes filles, et toute son histoire depuis 1959, l'année de sa création. C'est vrai que c'est très très bien fait, mais moi j'ai peur que ça ouvre des portes à d'autres à qui ça va donner des idées, et que du coup le blockbuster familial de l'été ne devienne plus que ça, faire des films certes intelligents, mais qui sont une pièce d'un puzzle marketing plus grand pour faire vendre et encore vendre, et ça me fait un peu flipper. Clément,
alors ouais, deux trucs. Déjà, je trouve que le film n'est pas que féministe, il est aussi très critique envers Barbie. Et ça, je trouve que c'est une des grandes réussites de Greta Gerwig à laquelle je ne m'attendais pas, c'est qu'il y a plein de moments où on questionne quand même qu'est-ce que Barbie a construit chez les petites filles des décennies précédentes, en quoi c'est problématique, notamment avec la scène de la petite fille qui parle directement à Margot Robbie. Et je trouve qu'elle est très lucide sur l'ambiguïté qu'il y a autour de ce jouet. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un jouet qui a permis à plein de petites filles d'arrêter de jouer avec des poupons et de jouer avec des femmes qui pouvaient représenter des modèles, parce que tu as Barbie astronaute, Barbie médecin, etc. Et donc, ça a créé peut-être des vocations dans des imaginaires. Et en même temps, elle est aussi très lucide sur le fait que physiquement, c'est une sorte d'idéal impossible à atteindre pour les femmes, qui leur met beaucoup de pression, et pour les petites filles. Et ça, je trouve qu'elle adresse bien ça dans le film. Il y a vraiment cette ambiguïté autour du jouet. Et honnêtement, Mattel, c'est vrai que bon, voilà, c'est un film qui est un film de commande, c'est un film de pour vendre des jouets derrière, mais je trouve qu'ils ont eu au moins l'honnêteté de reconnaître leur héritage aussi un peu problématique, et c'est pas toutes les marques qui font ça. Et j'ai envie de dire, après, pour répondre à ce que tu disais, Romain, est-ce que tous les blockbusters sont pas faits au fond pour vendre des produits dérivés? C'est-à-dire que est-ce que le problème c'est que ça soit au départ des poupées, qu'on en ait fait un film, ou est-ce que ça c'est pire que Star Wars qui est au départ un film et qui sert plus qu'à vendre des jouets et des jeux vidéo, tu vois? Et je me dis, bon, enfin, pour moi, il n'y a pas de... Les deux sont pas très bien, mais produisent certaines fois des bons films. Donc, c'est tout le paradoxe. Et je trouve qu'elle a vraiment un regard sur le capitalisme qui est vraiment très intéressant, très acerbe. Et j'ai trouvé que c'était un film brillant au niveau de son propos. Et je reviens sur ce que j'avais dit dans la BA, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce film s'adresse aussi aux petites filles. Et que si tu vas voir ce film avec ta gosse, bah putain, tu prends une énorme claque de féminisme et de lutte contre le patriarcat et tout. Et si ça peut aider à construire des femmes et des hommes aussi plus progressistes pour plus tard, bah déjà le film pour moi il est réussi, et j'en attendais pas autant de la part d'un film de jouets, entre guillemets, tu vois. Et c'est là où je trouve qu'ils ont eu vraiment un coup de génie de filer le film à Greta Gerwig, même si c'était très risqué pour eux parce qu'à plein de moments elle défonce Mattel. Mais c'est que bah, ça en fait une réussite aussi critique, parce qu'il y a les critiques aiment beaucoup le film, le public aime le film, et je trouve que voilà, ça pour moi c'est aussi un message pour les studios, c'est que quand tu prends un vrai auteur et que tu lui donnes n'importe quel matériau, il peut le rendre intéressant. Et je, voilà, j'espère que les studios et la suite des films de jouets à venir vont suivre la même truc et pas juste faire un univers étendu Marvel de jouets, quoi. Ce qui est un peu la tentation. Je pense qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire 14 films là, Mattel.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas une forme de cynisme, voilà, déguisé un peu dans tout ça, en fait.
Oui, mais si ça part d'un film qui au départ est très bon, bon bah au moins on aura eu celui-là, tu vois.
Clémence.
Bah ouais, je suis totalement d'accord avec Clémence. C'est ce que j'allais dire, c'est que toi tu te projettes en voyant toute une opération marketing, mais pour le moment on juge un film. C'est ce premier film-là en tant que film. Et ce que je retiens vraiment beaucoup plus, comme le disait Clémence, c'est l'aspect blockbuster hyper réussi, en fait, plus que le message marketing qui évidemment est présent, mais en fait qui ne prend pas pour moi le dessus, hein. Vraiment, ce qu'on retient en sortant de ce film, c'est que c'est un blockbuster qui a attiré vraiment énormément de monde, et ça continue. Donc c'est prouvé, il fait des chiffres et des visionnages de malade. Et un film d'été, quoi. Un vrai blockbuster d'été.
Excuse-moi, mais avec la campagne promo qu'il y a eu, c'était sûr. Enfin,
mais au-delà de ça, enfin, c'est hyper cool parce que ça n'existe pas, les blockbusters aussi féminins. Par une réalisatrice avec un tel propos féministe, c'est inouï, enfin, c'est inédit, je veux dire. Et du coup, moi, c'est vraiment ça que je retiens. Et au-delà de ça, c'est un blockbuster de qualité. Enfin, en termes de mise en scène, de décor, de costume, tous les moyens qui ont été mis donnent un résultat qui est vraiment très, très chiadé. Tout est pensé au millimètre et tout. Enfin, moi, je le prévois déjà qu'il a des nominations pour les Oscars à plusieurs niveaux. Ouais. Les acteurs sont tous, tu vois, qui s'éclatent et ils sont excellents. Et voilà, vraiment, c'est un grand spectacle qui nous fait plaisir et qui n'est pas qu'une campagne marketing, qui est aussi très généreux dans sa réalisation et dans ce qu'il donne et dans son divertissement. Ça part de divertissement. Et effectivement, ça parlera aussi bien à des jeunes filles ou des jeunes garçons qui voient le côté aventure du film, l'histoire, l'intrigue qui est hyper prenante, qui est inattendue avec cet arc Ken qui devient finalement un antagoniste, avec son propos qui dégomme un peu le patriarcat et qui fait réfléchir. Et au-delà de ça, pour les gens plus de notre âge, moi ce que je vois, c'est que ça va pas me donner envie d'acheter des Barbies, et je pense que même si j'avais des enfants, j'aurais pas forcément envie immédiatement de leur acheter des Barbies. Mais par contre, je vois une énorme hommage nostalgique à tout ce que j'ai eu comme jouet, toutes les Barbies et leurs accessoires que j'ai eu étant gamine. Et c'est en ça que ça me fait dire que c'est ultra bien exécuté, en fait, et que c'est ultra fidèle et chiadé jusqu'au bout du moindre petit verre en plastique ou du moindre frigo qui n'accueille que deux bières. C'est que des petites références à des trucs vraiment réels, des jouets, et en même temps, voilà, ça met un petit coup de pied dans la fourmilière, quoi, par rapport.
Non, mais c'est vrai que c'est un film très frais, franchement, c'est... Et tu as raison, c'est que les décors, moi, je trouve qu'ils sont géniaux. Ça va prendre l'Oscar, ça, j'en suis certain. Ouais. J'en mets déjà ma main à couper parce que c'est tout simplement du Barbie à grandeur,
à taille réelle.
Et c'est un peu un rêve de gosse de voir ça. Et même, j'imagine, à tourner, ça devait être trop, trop cool. Et les costumes aussi sont fidèles à l'univers Barbie, et c'est très bien représenté. C'est un peu un petit vent de fraîcheur, voilà. Johanna, je vais te laisser parler sur le film.
Ben, presque tout a été dit. Bon, c'était pour saluer la direction artistique du film. Vous avez commencé à en parler, qui est hyper chiadée, hyper cohérente. Ouais, je pense que Oscar, nomination, meilleur décor, meilleur costume. Et saluer le jeu d'acteur de Ryan Gosling, dont j'avais parlé de son potentiel comique dans The Nice Guys. Là, il est à un paroxysme de son potentiel comique. Le personnage est assez... non seulement il est bien servi par le scénario, et c'est très bien exécuté parce qu'on sent qu'il s'est donné à fond dans ce personnage. Je suis allée un peu voir des interviews et tout. Il avait vraiment envie de défendre ce personnage-là. Et c'est très bien exécuté, notamment dans une scène incroyable de comédie musicale où il est excellent. Margot Robbie est très bien. Et un gros big up à... comment il s'appelle ? America Ferrera, donc qui jouait Ugly Betty et qui joue la mère qui a rejoué avec la Barbie et qui est triste et qui est un peu à l'origine de tous les bouleversements qui se passent. Qui a un discours incroyable dans le film. Je l'ai vu avec Romain, qui avait envie d'applaudir à la fin de son discours.
Il y a un monologue qui est...
Et j'ai lu des commentaires de gens qui disent qu'eux, ils ont applaudi dans la salle après ce monologue.
Ah, j'aurais dû le faire.
Et j'ai appris... j'ai lu une interview où elle dit que Greta Gerwig lui a dit, juste pour la booster avant de tourner, elle lui a dit « Meryl Streep aurait adoré dire ce monologue ». Donc, petite pression, mais bon, elle s'est fait plaisir. En tout cas, ouais, bravo pour l'intelligence du film, pour la direction artistique qui est incroyable, parce que il s'agit pas juste de balancer son propos, il y a de la vraie mise en scène derrière, il y a une vraie qualité dans toute la direction, dans les décors, dans la lumière. J'ai beaucoup aimé aussi la photo, parce que tout était hyper cohérent. Et bravo pour ça, parce que c'est un tout, c'est un film complet, quoi, avec le fond et la forme.
Pour petits et grands, et ça c'est fort aussi. Et maintenant, on va passer à Martin.
Oui, bon. Ouais.
Martin qui n'a pas aimé, si j'ai bien compris.
En tout cas, je suis beaucoup moins enthousiaste que vous. Je me suis un peu ennuyé, donc c'est pas un bon signe. Je vous rejoins sur pas mal de points positifs quand même. Bah, déjà, c'est vrai que c'est important qu'un blockbuster, un film avec autant d'écho et un propos féministe assumé, important, en plus réalisé par une femme. Bon, il y en a de plus en plus des réalisatrices, mais voilà, ça je vous rejoins sur ce point-là. Sur les décors aussi, c'est quand même une belle création d'univers, ça j'ai trouvé ça cool. Et il y avait un autre point que j'avais bien aimé, c'était Margot Robbie tout simplement, que je trouve toujours aussi forte, toujours aussi bonne comédienne. Je crois que je l'ai apprécié dans tous les films que j'ai vus. Voilà, mais pas mal de choses qui m'ont déçu. Bah, la première, c'est qu'en fait, contrairement à ce que disait Clément, effectivement, il y a un retournement au milieu du film qui est assez un peu inattendu, mais sinon, à part ça, j'ai l'impression d'avoir vu tout le film dans la BA. Ça m'a un peu gêné. J'ai l'impression d'avoir vu la quasi-totalité des vannes qui étaient plutôt réussies, mais du coup, je les avais déjà vues. Donc ça, ça aurait pu me plaire. Je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié le film sans avoir vu la BA, à mon avis.
Malheureusement, on ne fait pas ça ici.
Oui, c'est pas trop le concept du podcast. Non, mais ça arrive sur certains films que les BA en dévoilent trop. Ryan Gosling, j'ai eu du mal, en fait, après le film, je me suis dit que j'aurais peut-être préféré que ça soit un acteur moins connu. Parce que j'ai eu du mal à enlever Ryan Gosling. Je voyais tout le temps Ryan Gosling, en fait. J'avais du mal à voir Ken. Et bon, c'est vrai qu'il est marrant, mais au bout d'un moment, il m'a un peu saoulé, quoi. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu...
Ouais, mais je crois que c'est son rôle qui est écrit comme ça.
Oui,
aussi.
Oui, c'est vrai. C'est peut-être le... aussi dans le point positif, le truc vraiment que j'ai bien aimé, un de mes passages préférés dans le film, je crois que c'est dans la deuxième partie, c'est quand vraiment sont appuyés tous les travers des mecs là, quand ils font de la guitare, quand ils draguent comme des lourdeaux,
le mansplaining, les chevaux, putain.
dans cette deuxième partie, je crois que c'est la partie qui m'a fait le plus rire du film. Mais à part ça, ouais, j'ai trouvé ça un peu long et pas été très surpris par rapport à ce que je connaissais du film, donc un peu déçu.
Là je te rejoins, parce que c'est vrai que le dernier tiers du film, je l'ai trouvé un peu longué aussi. Il y a une petite longueur où ça part en comédie musicale à ce moment-là, à peu près, là où ça commence un peu à se dénouer l'histoire du film. C'est un peu long à ce moment-là. Tu dis, bon, ça part en couille, mais ça part un peu trop en couille. J'aimerais bien qu'on enlève quelques minutes, parce que je sais pas si c'est si c'est utile en fait, même si ça reste très fun à regarder.
Parce que je pense que ça l'est, mais c'est que ça parle beaucoup en effet après la confrontation entre les Ken, et quand Ken, Ryan Gosling est au 36e dessous en train de pleurer et de craquer et de dire qui je suis et tout, il y a tout un passage assez bavard on va dire, qui parle de l'identité, de qui il peut être pour trouver sa place et qui est Barbie finalement, nan, nan. Je pense que c'est important, c'est nécessaire, mais c'est vrai qu'il y a peut-être en termes de rythme un côté un peu bavard.
Le ton change, j'ai l'impression qu'on était dans le Saturday Night Live à ce moment-là en fait.
En fait, j'ai eu l'impression que ce passage, il servait à dire aussi, enfin, à appuyer un des propos du film, c'est que tu n'es pas homme en disant je vais être genre un gros patriarche, je vais adorer le patriarcat. Justement, elle est obligée de passer par là parce que c'est quelqu'un qui sait pas qui il est, qui découvre un monde où l'homme domine, qui aime ça et du coup qui le transpose un peu littéralement et un peu bêtement. Et je trouve que toute cette fin là, ce dénouement, c'est pour dire aussi tu ne nais pas comme ça, tu ne deviens pas ça, c'est issu d'une éducation et tu peux le déconstruire. Quoi. Et la déconstruction ne dure pas 2 minutes. Tu vois. Je trouve que ça aurait été bizarre qu'il change en 2 minutes. Donc ça paraît un peu long, mais en même temps, c'est nécessaire pour arriver à la fin.
Et justement, il y a un... Alors, je ne sais pas, j'ai peut-être mal perçu ou mal compris, mais justement, dans cette morale du film, c'est ce que quelqu'un soulevait tout à l'heure d'entre nous, je ne sais plus, sur le fait qu'à la fin, quand il parle de faire un gouvernement et qu'elle dit au mec « Ouais, non, toi, on ne te prendra pas », bah, en fait, je me suis demandé s'ils n'auraient pas fait une morale un peu plus inclusive entre hommes et femmes. J'ai l'impression qu'en fait, ça reste deux univers très séparés. Et plutôt
très drôle, c'est que les deux mondes sont interconnectés. Et même si chez Barbie Land, ils décident finalement de remettre le gouvernement de femmes et tout, ils font la blague de dire « Bon, bah, les hommes tels que vous êtes ici maintenant, vous serez peut-être bientôt avec autant de droits que les femmes dans le monde réel. » Et ça, c'est une vanne qui est très drôle parce que c'est de montrer que c'est presque un parallèle symétrique. C'est-à-dire que dans notre monde, les femmes essayent de façon progressiste de acquérir des droits et tout, mais c'est très très long. Et en fait, là, c'est pareil dans le monde de Barbie Land, mais à l'inverse avec les hommes.
Oui, c'est ça.
Qui, voilà, mais en fait, ça montre qu'il ne peut pas y avoir tout de suite un équilibre idéal, mais en même temps, je trouve que le discours est un peu inclusif quand même quand il dit que chacun n'est pas que homme ou que femme, mais la personne qu'il est, qu'il ou elle est.
Mais je l'ai vécu comme toi, Martin. C'est-à-dire, je me suis dit, ah merde, du coup, ça va être un monde où c'est les femmes qui sont en domination et les hommes en dessous. Et après, j'ai compris qu'en fait, elle critiquait en miroir le monde dans lequel on vit actuellement, où c'est l'inverse.
Non, mais ouais, c'est ça.
Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ah, ça aurait pu être encore plus l'union entre les hommes et les femmes, mais elle choisit quand même de faire un monde miroir. Voilà, parce que dans le monde actuel dans lequel on est, on n'y est pas encore du tout. Donc,
mais c'est en fait là,
c'est équilibre. Donc,
c'est ça, mais en fait c'est un point central du film et des réflexions qu'on peut avoir justement sur la lutte de l'émancipation des femmes. Effectivement, moi, c'est ce que tu soulignais, Clémence, exactement. C'est que j'ai, dans ces réflexions, c'est vrai que moi, j'aspire à une société d'équilibre. Bon, l'équilibre n'existe pas, mais en tout cas, où les droits des femmes seraient à peu près les mêmes que ceux des hommes, ou au-dessus ou en dessous. Mais je veux dire...
Tendre vers l'équilibre, en tout cas.
Ouais, c'est ça. Non, mais même l'équilibre parfait n'existe pas. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est de passer d'un équilibre à un autre, et ce qui m'a un peu dérangé dans le propos du film, voilà, c'est tout.
Moi, ce qui est positif, c'est que le film fait se poser cette question, en tout cas.
Oui,
donc il est quand même conscient qu'effectivement, il peut y avoir vite une inversion injuste d'un côté ou de l'autre.
Moi, j'ai eu l'impression que ça soulignait justement, attention, si on réussit à... Si on a une volonté de rééquilibrer, ne tomberons pas dans l'extrême inverse. C'est comme ça que je l'ai reçu.
En parlant d'équilibre, je vais repartir sur Mattel, parce que c'est vrai qu'on tape sur Mattel, clairement, et puis bon, c'est voulu, hein, c'est pas Greta Gerwig qui a imposé son truc, hein, parce que c'est eux qui donnent l'accord en fait au final, hein, c'est leur produit. Donc on tape sur Mattel, mais on tape avec le côté en mousse. Hein. On va pas se mentir, c'est que Mattel, ils sont certes représentés comme des clowns, c'est que des mecs en costard et tout, et ils sont représentés comme des clowns, des sans plus. Et à la fin, c'est genre en mode, ils débarquent chez Barbie, malheureusement, c'est pas super bien exploité, on sait pas trop s'ils ont compris ou quoi. Mais en gros, ils sont d'accord et ça se termine un peu comme un Disney de ce côté-là de chez Mattel. Et je trouve
sont d'accord parce que ça rapporte de l'argent.
Ils sont d'accord parce que ça rapporte de l'argent, ça c'est bien souligné.
Oui, mais est-ce que le message est bien compris par eux, par tous ces gars-là en dimanche, parce que c'est que des mecs chez Mattel, ça c'est bien montré. J'ai l'impression qu'on tape dessus, mais on se couvre aussi quand même un peu, faut pas non plus
passer
sur la maison mère. Ouais. Tu vois.
Est-ce que c'est pas un discours sur le film aussi? Genre le film là, s'il fait de la thune, taisez-vous bien et laissez les gens faire, quoi.
Je sais pas, mais en tout cas, oui, c'est bien fait.
Après,
c'est
un côté qui est évident, je pense. Tu peux pas éviter que Mattel se couvre et essaie de se donner un peu le beau rôle malgré tout. C'est eux qui le produisent, le film. Donc ça, c'est évident que forcément, il y aura toujours ce biais-là qui sera présent. Mais là où c'est malin, c'est que ça te pose quand même des questions systémiques, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de blockbusters qui font te poser des questions systémiques. Et je rebondis un peu sur ce que vous disiez là sur l'équilibre justement entre les droits des hommes et des femmes, et finalement ce qui est dénoncé c'est le système, c'est même pas une question de déséquilibre qui serait due à l'identité du genre, c'est vraiment le système, il fonctionne d'une certaine manière, et si on fait un système équivalent mais avec des normes qui changent, avec des bases qui sont inverses, bah ça sera le même résultat. Donc en fait, ce qui finalement, je trouve que Barbie, certes ça parle du féminisme, mais le féminisme c'est aussi, enfin, j'ai l'impression, une conséquence de la lutte contre les systèmes un peu, je veux dire, capitalistes, pour être dans la généralité, même si c'est simplifier le propos. Mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment un film qui se sert du système pour le dénoncer en ayant conscience qu'il en fait partie. C'est tout le paradoxe des gens qui sont contre le système, finalement. Et ça nous met aussi face nous-mêmes à nos paradoxes à nous.
Oui, puis à la fin, elle ne veut plus être Barbie. Donc, c'est comme si elle renonce non seulement au statut de femme tel qu'il est à Barbieland, mais aussi dans le monde réel, mais elle renonce aussi un peu au capitalisme quelque part.
C'est ça.
C'est comme si d'avoir vu tous ces trucs chez Mattel, elle se disait bon, en fait c'est pas pour moi, et voilà. Et ça, c'est quand même intéressant aussi d'avoir une héroïne qui ne veut plus être l'ambassadrice de la marque qu'elle représente.
Et est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le personnage de Alan ? J'ai pas du tout compris.
C'est un produit, c'est le copain de Ken, c'est vraiment
poupée.
Un jouet en fait qui a été sorti et qui a été un peu vite abandonné. Okay. C'est pour ça qu'il joue là-dessus en disant bon.
Oui, mais de base c'est une ref, mais je trouve qu'il est intéressant parce qu'il incarne aussi une forme de masculinité qui est différente au sein de Barbieland et qui ne s'y retrouve pas ni dans un sens ni dans l'autre, tu vois, et complètement. Enfin, de base, c'est une ref de ce personnage à laquelle on n'attache pas beaucoup d'importance. Il n'est pas sous les feux de la rampe,
oui,
c'est
entre les deux,
un outsider, enfin voilà, un jouet de seconde zone. Mais en plus de ça, je trouve ça intéressant quand il le retrouve, quand finalement c'est les mecs qui ont pris le pouvoir et tout, et qui dit non, mais ça ne me va pas non plus. Enfin, je trouve qu'il montre bien aussi d'autres formes d'identification des gens, d'identité qui sont aussi, quoi qu'il arrive, marginalisées en fait. Enfin, il me semble. Après, bon, c'est pas le truc le plus développé non plus.
Non, mais je savais que j'étais passé à côté d'un truc, j'avais pas très bien capté le perso.
Faut connaître bien Barbie pour avoir toutes les refs. Il y en a énormément.
Mais ce que j'ai bien aimé, c'est à la toute fin quand même qu'elle aille chez le gynéco, parce que en fait, mine de rien, Barbie, c'est un idéal féminin, mais qui n'a pas de sexe. Et effectivement, le fait qu'elle revienne à et qu'elle décide d'être une vraie femme de notre monde, enfin, ça commence par là en fait. C'est que c'est pas que avoir des beaux seins et une plastique de rêve, mais aussi aller chez le gynéco finalement.
Oui, et en plus, c'est un événement. Il y a tout un cérémonial. Moi, je pensais qu'elle allait à un entretien d'embauche.
C'est quand même
la
dernière réplique du film, c'est quand même costaud quoi.
Et oui.
Barbie plutôt bien accueillie au sein de Feta Bea, malgré quelques petits défauts là qui font un peu couac, en espérant, moi, c'est mon avis, que. Tous les autres blockbusters de l'été qui arriveront ne vont pas s'engouffrer dans la brèche, c'est-à-dire en fait tous ceux qui font des jouets, quoi. Qu'on n'ait pas un film, je sais pas moi, donnez-moi un jouet là.
Monopoly,
ça existe déjà. Hein,
oui, mais là vraiment Barbie est en train de péter tous les scores, et donc on a vu que l'effet de mode quand Iron Man est sorti en 2008, regarde où est-ce qu'on en est, tu vois. C'est.
Ouais, S'ils sont tous faits comme ça, moi, ça me dérange pas.
Oui, mais s'ils sont tous merdiques, on ne pourra pas reprocher à Barbie d'avoir ouvert une brèche, tu vois. En fait, ça restera le bon blockbuster et plein d'autres merdes comme il y en a déjà.
C'est juste que moi, dans mon monde idéal, je veux juste dire à ceux qui font des films blockbuster que c'est pas forcément la meilleure idée qui vous vient en tête là, parce que je les vois venir de loin et fait attends, ça me donne une idée ça.
Ils vont faire un film Polly Pocket. Et
oui,
j'en ai eu plein des Polly Pocket quand j'étais petite.
Ça commence comme ça. On se retrouvera dans 15 ans à détruire le Polly Pocket Universe.
À quand le film sur les dés
ils ont annoncé.
Tu peux en faire 6.
Dice the movie.
Ils ont annoncé l'actrice qui va faire dans le film Polly Pocket, mais j'ai oublié qui c'était. Mais l'histoire, c'est
Marlène Schiappa, je crois.
C'est Lily Collins.
Exactement, voilà. Et ça va être une petite fille qui sera avec sa Polly Pocket, donc qui sera Lily Collins, mais toute petite, minuscule. Genre l'indien du placard, tu vois.
Encore une fois,
on était déjà une histoire de jouer.
Et vous avez vu que Greta Gerwig, le prochain projet là, c'est Narnia pour Netflix, apparemment.
Waouh, ça y est, maintenant
elle est dans le game.
Maintenant elle est dans le game. Hein.
Mais pourquoi refaire Narnia ?
Je ne sais pas.
Écoute, ça c'est une autre question à
Allô,
laquelle
Greta.
On va pas répondre aujourd'hui parce qu'il va falloir qu'on se lance après le rose bonbon de Barbie dans le gris nucléaire d'Oppenheimer. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Barbie. Voyons voir si Oppenheimer délie aussi nos langues autant. Que Barbie, je sais plus où je fais des phrases, je sais plus si
on
y
a
des points
compris.
Ou des virgules.
On a
tous, ouais. Bref, Oppenheimer.
Douille ou pas douille.
Hein ? C'est vrai, il faut que je remette le générique, du coup, attendez, bougez pas.
Les gens vont être en mode un jour sans fin l'épisode.
C'était une douille.
Douille, 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 pas douille.
T'es pas une douille.
La douille nucléaire ou pas la douille du tout, Oppenheimer. Martin, je vais te lancer, je vais changer le sens.
Grosse douille.
Oh putain.
Voilà, ça venait du fond du cœur.
Oh la grosse douille.
Oh là là, l'ogive nucléaire en pleine teuté.
Ouais, bah de toute façon, on développera après, mais oui, grosse douille, parce que, bon, si, en quelques mots, juste, j'étais intrigué par cette BA. Et j'espérais, je sais pas, un film qui me surprenne, un truc un peu plus, assez mystérieux, et en fait, c'est un film très terre à terre, quoi. Enfin, c'est pas ce que j'ai reproché au film, mais voilà. La bande-annonce m'avait intrigué, et le film m'a déçu, tout simplement.
Wow, douille. Un vrai douille, quoi, hein. Clément. Douille ou pas douille ?
Je sais pas. J'aimais pas la bande-annonce, j'aime pas le film, donc en vrai, c'est pas douille.
Mais pas de la même manière.
C'est malheureusement les défauts auxquels je m'attendais, c'est-à-dire un manque d'émotion, un film trop bavard, beaucoup trop long, et des personnages féminins écrits à la truelle. Donc, non, pas douille. En vrai, je m'attendais vraiment à ça. J'ai pas été plus déçu que ce que je pensais.
Pourtant, t'étais bien énervé. On y reviendra. Ce qu'on a vu ensemble avec Clément et Johanna. Clémence, douille ou pas douille sur Oppenheimer ?
Eh ben moi, c'est une douille positive.
Wow,
et c'est vraiment inattendu parce que j'aime
très
pas
triste.
Du tout Nolan.
Les teams là, chez Martin et Clémence, il y a une...
que un nous font les colocs.
Ben non, parce que la BA, autant elle m'intriguait un peu par son ambiance prenante, autant l'histoire, le sujet, alors là, ça me hypait pas du tout. Et en fait, j'ai retrouvé l'ambiance dans le film, mais en plus de ça, l'histoire m'a vachement tenue, en fait. Voilà.
Et ben bravo.
ouais, bravo, c'est vrai.
Elle a été tenue.
Johanna, même question que pour tout le monde.
Moi, pas douille, j'avais peur avec la BA de voir une caricature de Nolan et j'ai vu une caricature de Nolan.
Aïe. On se rapproche de plus en plus. On sait de plus en plus qui est le vainqueur là déjà. Hein. Kevin, douille ou pas douille ?
Douille, mais positive moi aussi. Mais alors moi c'est marrant parce que moi j'avais peur, comme Johanna, de voir du Nolan, puisque Nolan est une caricature pour moi depuis le début. Mais je trouve que, enfin, bizarrement, le film m'a, en termes de narration, en tout cas, m'a happé. Après, il y a plein de défauts, mais qui sont des défauts très nolaniens qu'il y a dans tous ses films, d'ailleurs. Donc ça, vous allez pouvoir revoir sa filmographie un petit peu à reculons. Mais je sais pas, la narration m'a tenu et en fait, je m'attendais pas à être tenu par l'histoire, quoi.
Un tremblement de terre chez les colocs, hein, qu'on rappelle, qui détestent Nolan, et chez Kevin, qui déteste les biopics. Donc là,
ils
vraiment...
ont dû diffuser un truc.
Attention, je déteste pas Nolan.
Attendez, vous étiez dans quelle salle?
C'était pas la 10.
Salle 3 du GC.
Je pense que vous avez eu les punaises de lit qui nous ont transmis un génome mutant.
Mettez le gobelin.
Je crois qu'on est dans le multivers.
Ah là là, là là, je vais devoir rejoindre ceux qui ont déjà dit douille. Hein. Et pourtant, je suis Tim Oppenheimer, pour le rappeler. J'avais beaucoup d'espoir avec la BA qui m'annonçait du grand cinéma dans le sens technique, quoi, parce que Nolan est un technicien. Enfin, je veux dire, il a un amour du cinéma que je partage avec lui sur tout ce qui est notamment la pellicule,
la salle,
les effets physiques, voilà, l'effet de la salle pour lui c'est quelque chose qui est très important, même limite déifié, quoi, hein, dans sa cinéphilie. Et c'est vrai que je partage ça aussi parce que pour moi la salle c'est ça, il faut que ça vibre, il faut que ça produise des émotions, que ce soit le son, les images, tout en correspondance avec nos sens. Mais ça a malheureusement pas tout fait, le son est très bien mais le reste, oh là 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 là, j'ai passé un mauvais moment, voilà. J'ai été.
Ouais, t'étais, faut le dire, t'étais pas bien.
Ouais, Clément, Romain a failli faire une crise d'angoisse à la sortie.
Alors, merde.
Comme je disais, je me suis pas sorti en mode le monde va mal, nous allons tous mourir. C'était même pas ça. C'est juste que ça a fait ressortir en moi tout mon stress qui correspond à ma vie et mes problèmes. Mais j'étais sorti, j'étais pas bien en fait. Et puis
ouais,
j'étais fatigué.
T'as chamboulé.
J'étais fatigué dans le sens où.
Commence pas nos lunettes.
Ça dure 3 heures et puis ça m'a fatigué parce que. Il y a énormément de blabla dans le film, et le film on les voit en VOST évidemment, et donc on fait que lire forcément parce que je ne suis pas bilingue, voilà.
Ah oui,
je comprends
une
pas tout.
Migraine ophtalmique en fait.
Et à la fin je me suis rendu compte que j'ai fait que lire pendant 3 heures.
Comme ça m'a fait ça sur The French Dispatch.
Arrêtez.
La même chose, je me souviens, j'avais ce même ressentiment sur The French Dispatch, j'avais passé mon temps à faire en haut en bas pour...
Et j'adore lire, tu vois, c'est pas le problème.
J'aime le cinéma.
Mais là c'est trop, le film parle trop, et le film parle trop de... Enfin voilà, je fais quoi, on se lance?
Vas-y, lance-toi.
Oui, j'ai lu l'équivalent d'un livre, quoi. Donc j'ai les yeux fatigués, et puis surtout une histoire à laquelle j'ai franchement pas tout compris, parce qu'encore une fois, Nolan nous fait du Nolan, hein. Ça fait 2-3 films qu'il nous fait du Nolan, dans le sens où il veut absolument tout compliquer. Pourquoi tu compliques les choses, mon ami? Je sens que tu veux mettre tout l'article Wikipédia de Oppenheimer, tu veux le mettre dans ton film sans à la virgule près, mais franchement, il y a des phases de sa vie, on s'en bat les couilles. Franchement, il y a une heure et demie du film qui pourrait être enlevée parce que pour moi, ça change rien. Un téléchargement.
C'est Nolan, il vient de t'écrire.
Masqué en faux.
You motherfucker.
Je voulais t'inviter au tournage de mon prochain film, mais fuck. Attends,
fermez les notifications. Oui, et donc le film est, je trouve, beaucoup trop complexe pour ce que ça pourrait être. Hein. Franchement, je ne suis pas contre l'idée qu'on me présente la vie d'Oppenheimer, mais là, je trouve que pour moi, c'est un film qui va parler beaucoup aux physiciens, aux historiens, ou bien simplement aux...
Et aux juristes.
Voilà.
Putain.
Aux juristes ou aux avocats.
Mais c'est par contre, je ne comprends pas cet argument, parce que c'est ce que je craignais, mais ça ne parle pratiquement pas de physique, en fait.
Ouais, je trouve que c'est pas très compliqué au niveau physique non plus.
Compliqué, j'ai trouvé ça.
Sur la physique, il n'y a rien.
Ils disent rien, quasi. Ouais.
Franchement, il y a une séquence du film qui doit durer à peu près une heure et demie, je ne sais plus. En gros,
séquence.
plusieurs séquences, mais un gros passage du film qui doit durer une heure et demie, bah, notamment avec Matt Damon et enfin toute la partie base secrète et construction du premier test de, je sais plus comment il s'appelle.
Le projet Manhattan.
Oui, mais c'est
Trinité.
Fort à l'amour.
J'ai tout retenu, mais franchement, c'est inouï. Je retiens même les prénoms de personnages et tout.
Voilà, le projet la Trinity, jusqu'à qu'il fasse exploser la bombe, j'ai trouvé ça super. Voilà, là, on est sur quelque chose qui m'a hypé et j'étais vraiment dedans et c'était très cool. Mais le reste derrière. Bêtement comme ça, hein, parce que je vais vous laisser expliquer vous après vos trucs, mais bof, voilà, vraiment.
Je vais rebondir parce que je te rejoins immédiatement sur ça. Pour moi, il y a vraiment une heure et demie en trop. C'est un truc de ouf. J'ai jamais vu un truc aussi chiant de ma vie. Pourquoi ? Parce que le procès, le problème, c'est que ça m'intéresse pas parce que le procès est probablement réel, très bien documenté, ça s'est probablement passé comme ça, etc. Et c'est sûrement vrai et tout. Mais ce procès, je trouve qu'il en fait rien en termes d'enjeux de narration et d'enjeux visuels, notamment. Le film est très pauvre visuellement, je trouve. C'est un reproche que je fais quasiment tout le long du film, à part la scène de la bombe. Mais le procès ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas d'enjeu dramatique derrière ce procès. C'est-à-dire que si, déjà, c'est pas un procès parce qu'il n'y a pas vraiment de juge et tout. C'est un espèce de truc organisé dans un bureau, un truc un peu fantoche comme les États-Unis savent très bien le faire, où c'est un truc à charge contre lui. Il doit repasser toute sa vie à l'oral et c'est le prétexte pour raconter le film. Et en gros, ce qui me dérange beaucoup, bah, c'est que ce procès n'a pas d'enjeu. C'est-à-dire qu'au pire, s'il le perd, il perd son habilitation. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Je veux dire, il va pas en prison, il risque
pas
la peine de mort.
Il y a pas aussi le risque par rapport au macartisme qui risque plus grave et pour le coup,
c'est
ça,
pas mentionné. Enfin, en tout cas, c'est pas mentionné. Je l'ai pas senti du tout. C'est-à-dire que s'il perd son habilitation, bah, au pire, il peut plus aller dans certains bureaux où il avait l'habitude. Qu'est-ce qu'on sent ? Enfin, ce n'est pas intéressant. Et le deuxième procès, c'est enfin la deuxième audition, c'est celle de Robert Downey Jr. qui joue Lévi-Strauss et qui s'apprête à devenir ministre. Donc, il passe une audition pour savoir s'il doit devenir ministre. Moi, déjà, ça, j'ai mis 2 heures à le capter. Et pareil, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous de ce mec. C'est qui ? On ne sait pas qui c'est. Il n'est pas important dans l'histoire des États-Unis, je trouve. En tout cas, il n'est pas important dans l'histoire du film. C'est juste un mec qui a accueilli un comité, enfin fondé un comité scientifique dont Oppenheimer a refusé de faire partie, apparemment, si j'ai bien compris, et à qui Oppenheimer a fait une blague qu'il a humilié en public. Et donc, le mec se venge. Mais on s'en fout. C'est des trucs de cours d'école. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Et je trouve qu'en plus, il ne sait pas quoi en faire en termes de filmage de ces scènes de procès. Il n'y a rien pour moi et c'est le gros problème du film, c'est-à-dire qu'au milieu de Oppenheimer il y a un film qui est trop bien, à partir du moment où Matt Damon arrive et où il faut faire la bombe, battre les nazis et tout, il y a un vrai enjeu dramatique, il y a de la tension, tout d'un coup on comprend ce qui se passe, on se dit putain bah s'ils la font pas ça va être les Allemands et tout, ça, on apprend plein de choses sur l'histoire de comment ils ont fabriqué cette bombe, les tensions entre les différents scientifiques etc, et quand la bombe part, c'est fini. Pour moi, après, ça n'est plus intéressant, ça n'est que du blabla tout le temps. Même l'espèce de pseudo-trahison de Robert Downey Jr., moi, ça n'a pas fonctionné sur moi, parce que j'ai même pas compris ce qui se passait à ce moment-là dans le film. Et ce que tu disais, Romain, je trouve le film affreusement compliqué, alors que c'est très simple, en fait.
Je crois qu'il part du principe, en fait, qu'on est au courant, comme lui,
c'est
il
ça.
Est au courant, en
On
n'est
pas américain, moi, je suis pas physicien quantique. Les trois quarts des dialogues, je les trouve imbitables, je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Et comme il fait rien visuellement, encore une fois, de tout ça, à part nous montrer des paillettes bleues qui volent, ça ne m'intéresse pas. J'aurais sincèrement vu un documentaire sur Oppenheimer, ça m'aurait fait le même effet et j'aurais préféré parce que moi j'aurais vu le vrai Oppenheimer, c'est ce que j'ai fait du coup après, je suis allé voir des vidéos de lui et je trouve que même en termes de jeu, pourtant Cillian Murphy c'est un excellent comédien, il l'a prouvé maintes et maintes fois, mais je trouve qu'il rend pas du tout l'espèce de fragilité qu'avait Oppenheimer en vrai, c'est quelqu'un qui parlait très doucement, qui choisissait très bien ses mots et tout, et dans le film c'est un espèce de mec d'action qui va de couloir en couloir qui donne des ordres à des gars et tout. Et je voilà, bon, j'ai juste pas accroché au film. Après, je reviendrai plus généralement sur Nolan, mais je vous laisse continuer.
Kevin.
Je vais faire l'avocat de la défense. Je sais pas si on m'avait dit un jour que je défendrais un Nolan.
On est passé en noir et blanc, c'est parti.
C'est parti, je suis Lewis Strauss. Non mais franchement, je comprends votre ressenti, mais moi je l'ai pas vécu comme ça du tout. Pour moi, vraiment, la partie physique, procès et tous les termes compliqués qui sont dits, pour moi c'est du folklore. Moi je m'en foutais en fait du fond du truc. Ce qui était important, ce qui m'a moi pris, m'a happé dans la narration, c'est ce côté suspense qu'il y avait, que j'ai ressenti de la récupération politique et de la décrédibilisation d'Oppenheimer pour que son invention, qu'il a considéré lui-même comme étant au fond une erreur, devienne plus tard d'un armement encore plus dangereux et qui sera un petit peu le carburant de la guerre froide finalement. Et pour moi, le film, il parle un peu de ça et de comment les gouvernements ont récupéré ça, alors que c'était quelque chose qui avait été créé de base dans un contexte vraiment de crise directe, c'est-à-dire que c'était la guerre, et comment ils s'en sont servis après comme juste moyen de pression et de dissuasion. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, toutes les manœuvres politiques, toute cette espèce de duel, parce qu'en fait, le manque d'habilitation, si Oppenheimer perdait son habilitation, ce que j'ai compris, c'est que en fait il avait plus voix au chapitre, ce qui fait qu'il pouvait même pas s'opposer à la création de la bombe H. Et comme en gros c'était pas le seul, il me semble que c'est pas le seul justement à avoir subi ce genre de procès là, donc tous les gens qui étaient contre la bombe H, en gros le gouvernement américain s'est démerdé pour les mettre de côté en mode laissez-nous faire notre bombe, on va faire tout péter, c'est rigolo, on est les meilleurs, regardez nos couilles.
Elles sont grosses, n'est-ce pas?
Ça va. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et je sais pas, moi, c'est ce côté thriller qui m'a plu. Et ça, franchement, ça m'a pris. Après, effectivement, il y a des défauts, mais je trouve des défauts très Nolan, quoi, et qui sont dans beaucoup de ses films. Je trouve que, effectivement, des fois, la narration est complexifiée pour pas grand-chose, même si d'un certain moment, je trouve que justement, ça accentue l'effet de suspense de pas savoir quand a commencé, quelle est l'origine de telle ou telle action dans le film et tout. Et puis, moi, je sais pas, je trouvais ça plutôt prenant dans la majeure partie des cas. Par contre, je te rejoins, je trouve que l'audition de... Enfin, c'est pas une audition, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, quand il passe devant le congrès, Lewis Strauss...
Oui, audition.
Le problème, c'est que c'est un personnage qui manque cruellement de développement, ce qui fait que, en fait, alors que c'est l'antagoniste... Enfin, oui, ce serait lui l'antagoniste du film... Et au fond, on comprend pas trop pourquoi il a mal pris le truc. Et ça, pour moi, c'est le vrai défaut de narration, c'est Lewis Strauss est pas trop incarné, on sait pas trop qui c'est, même si Robert Downey Jr. Joue très bien, il y a pas de souci, mais c'est vrai que tu crois pas trop au perso. Mais à part ça, bon, quand même, je trouve le film prenant, et autre défaut, je trouve, mais ça, on en parlera peut-être après, mais c'est vrai que les persos féminins, c'est quand même du Nolan pur jus, quoi, c'est qu'elle n'existe pas. C'est soit la meuf un petit peu dépressive,
hystérique et suicidaire,
et communiste, de surcroît.
De surcroît.
Ou la meuf matrone qui fait le linge, mais qui tient quand même le mari à la maison, parce que derrière tout grand homme, il y a une grande femme, bien sûr, c'est connu. Donc, et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que...
Après Barbie, ça fait bizarre.
Et puis, je trouve qu'il y a une scène qui est un peu malvenue, c'est pendant l'audition où il y a une projection de...
Pas possible, cette
scène. D'Oppenheimer à poil, qui fait l'amour avec Florence Pugh, mais j'ai oublié le nom du perso.
Il y a de la mise en scène, enfin. Aussi,
bah,
il y a
de la mise
fois,
en scène
c'est...
qui sert à rien, je trouve. C'est de la mise en scène qui est un peu voyeuriste et
parce
un peu.
Parce que les femmes, elles sont jalouses, tu comprends.
Un peu,
oui, mais
ça
qui
a pas
traduit
de sens.
L'intérieur à ce moment-là et la détresse d'Oppenheimer. Donc là, il y a un truc, tu vois, là, tu
suis pas d'accord.
Quoi,
parce
c'est
que
peut-être
ça...
mal fait, mais au moins, il y a quelque chose.
Les gens ont le même poil.
Je suis pas d'accord, parce que, en fait, la scène, ça veut peut-être te faire dire, j'ai l'impression que tu as raison, que Nolan voulait dire, regardez, Oppenheimer est humilié. Et pour moi, non, c'est humilier sa femme, en fait. La manière dont c'est mis en scène.
En fait, au début, on le voit que lui à poil et je me disais, ah, c'est intelligent parce qu'il l'est mis à poil.
Et là, elle
regarde un truc, mais après, on voit elle.
Et alors que, et c'est d'autant plus malvenu, je trouve, narrativement, que cet adultère-là n'a pas d'enjeu à aucun moment ailleurs dans le film. Donc, c'est vraiment gratos, genre Nolan qui dit, et regardez, je suis réalisateur. Mais passons, ça c'était un petit. Ça c'était un petit truc. Un petit truc qui m'a agacé, quoi. Mais autrement, tu vois, je trouve Clément, t'es un peu sévère sur le côté visuel du film parce que, certes.
Attends, parce que je l'ai pas encore abordé.
Si t'en as parlé un petit peu, t'as dit qu'il y avait rien à voir et tout. Mais je trouve effectivement il a fait tous des pas incroyables, mais je trouve qu'il y a des scènes qui sont quand même pas mal réussies. Moi j'aime beaucoup la scène de juste après l'explosion où il est devant tous les scientifiques et où il fait sa crise d'angoisse. Je trouve qu'elle est vachement bien foutue, et en tout cas je trouve que là, surtout en termes de gestion sonore, c'est la grande force du film, je trouve. C'est la gestion du son, c'est hyper prenant. J'ai bien aimé. Après effectivement visuellement c'est du flash et du l'écran qui tremble, mais je trouve ça plutôt c'est des trucs que t'as pas trop chez lui d'habitude, parce que Nolan c'est quand même quelqu'un qui est souvent monolithique, la caméra bouge pas trop, et puis il se contente du minimum parce qu'il est persuadé que son écriture est la meilleure du monde. Ça y est, je recommence à le critiquer alors que je défends son film, c'est incroyable. Mais voilà, non mais grosso modo, voilà, c'est juste pour dire que je trouve que le processus narratif, pour une fois, je l'ai trouvé prenant, même si un peu trop éclaté par moments. Mais il y a toujours ces maladresses d'écriture, notamment sur l'écriture des persos féminins, sur le développement de caractère de certains personnages qui, selon, enfin, pour lui, n'ont pas trop d'importance finalement, parce qu'il y a Oppenheimer qui est présent et dont la psyché est un temps soit un peu développée, quoi. Mmh. Et voilà. Donc. Je sais pas où je vais, tout fou y aller.
Et on n'est pas, aimé, on est pas sur une alerte disparition dialoguiste aussi dans le film.
Ah, les dialogues, c'est impossible.
Vas-y, Johanna, vas-y. On te laisse.
Moi, la narration éclatée, bon, c'est un choix, ça m'a pas. Qui m'a pas plu tout le temps parce que il y a des moments où j'ai eu l'impression qu'on me laissait en suspens au milieu d'une scène. En fait, j'ai eu un problème de montage. Parce que la narration éclatée, c'est quelque chose qui est très tricky à maîtriser. Et là, j'ai pas tout le temps senti la maîtrise de ça. Après, ça, c'est personnel. Je sais pas s'il a fait exactement ce qu'il a voulu. Moi, j'ai eu plus un problème de dialogue que j'ai trouvé très répétitif dans leur structure et stéréotypé. Ça veut dire, surtout au début, quand il y a beaucoup de name-dropping, de noms de scientifiques qu'il doit rencontrer.
Tu sais plus qui. Demandez à Princeton ou bien à Mac Miller ou bien... ces gens
Mac Miller.
C'est Borden qui l'a trahi. Mais c'est qui, Borden?
Et du coup...
Mac Miller.
et du coup, j'ai trouvé que en ça, cette narration éclatée l'a un peu desservie par moment. Parce que du coup, quand tu arrives à la fin et que les choses se délient, par exemple, la scène où Rami Malek, il intervient pour le défendre de façon inattendue parce qu'il s'est un peu fait humilier par Oppenheimer avant. Au fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient oublié ce personnage-là parce que du coup, dans cette narration éclatée, il apparaissait longtemps avant. Donc, il y a des gens comme ça qui repopent à des moments où tu les avais complètement oubliés et ils sont là et tu sais plus ce qu'ils faisaient avant, d'où ils viennent et tout, à part ceux qui sont très marquants. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu pénible, le côté ce moment où il y a beaucoup de noms qui sont cités. Il rencontre un gars, il se voit, punchline, ensuite on passe à la scène suivante. J'ai trouvé ça un peu trop répétitif. Mais voilà, après, ce qui m'a profondément ennuyé, vraiment, c'est les dialogues. Il y a des scènes que j'ai trouvées très prenantes, comme évidemment l'explosion qui est très bien gérée. Au son, c'est nickel. Mais pour revenir à cette scène là où il fait sa crise d'angoisse, je sais pas si ça m'a dérangé ou quoi, ou si j'ai pas compris les intentions, dans la mesure où j'ai adoré qu'il entende à la radio que cette bombe a explosé au Japon et qu'il y a eu des morts. Mais comme à aucun moment tu ne vois vraiment les conséquences, à part ce qui est dit dans le film, donc théoriquement, je pense qu'à l'époque, ils n'avaient pas forcément les images aussi
mais
pour
si,
voir.
Mais si, à un moment, lui, il voit les images.
Ouais, mais sur non, des Américains. En fait, il voit des images. Ouais, il voit des. Quand il fait sa crise d'angoisse, il voit des Américains.
Ça, je veux bien défendre ça parce que déjà.
Je crois qu'il projette.
Ouais, déjà, à un moment, il y a déjà, des images Nolan. Projetées, il regarde pas. Enfin, il détourne les yeux, justement.
Déjà, c'est Nolan et c'est
oui,
jamais
oui,
le.
Il détourne les yeux et tu le vois
c'est
pas.
C'est jamais le mec qui montre le trash dans ses films. Hein. Ça, c'est... Vous pouvez regarder tous ses films, il y a pas de trash. C'est... Il le refuse. Hein.
Non,
c'est...
mais moi, c'est même pas au-delà
mais,
du trash.
D'un autre côté, ouais. Moi, je le défends dans le sens où on reste sur Oppenheimer du début jusqu'à la fin du film. Donc, ne pas le voir. Les rester sur Oppenheimer, je trouve que c'est un parti pris
non,
mise en scène auquel j'adhère.
C'est ça, mais moi, c'est pas ça mon reproche. C'est que, du coup, quand il fait cette crise d'angoisse et qu'il voit une fille blonde avec le visage un peu décomposé, pourquoi pas une idée qui se fait d'un Japonais décomposé. Il voit ça sur une Américaine.
Du mais coup, s'il ne projette pas sur son...
Voilà, peut-être, mais du coup, moi, ça, je trouve que tout ça participe au manque d'émotion que j'ai eu globalement dans le film. C'est qu'il y a eu beaucoup de choses très théoriques et effectivement, moi, j'avais regardé... Parce que Lina a sorti plein de vidéos d'Oppenheimer, qui parlait super bien français d'ailleurs, c'est ouf, où j'ai vu des interviews et du coup, je me suis dit, putain, le film, ça va être cool parce que le personnage, il a l'air assez complexe et assez intéressant parce que le gars est humaniste à la base, il se retrouve au milieu de ça, récupéré politiquement. Et notamment dans l'interview que j'ai vue, il y a un peu ce conflit entre... ce qu'il aimerait que les politiciens fassent avec les découvertes scientifiques et la réalité. Et au fait, je ne l'ai pas ressenti dans le film. Je pense aussi à cause de cette narration qui est complexifiée des fois pour rien. Je pense qu'il aurait peut-être gagné à moins éclater à certains moments pour qu'on reste un peu plus avec à certains moments et que l'émotion ouais. Est prête.
Et édulcorer un peu, enlève-moi
c'est juste ça. Quoi. Mais sinon... je suis moins dur que Clément, mais je n'ai pas passé un bon moment.
Avec des faux twists et tout, c'est un peu gâché, j'ai l'impression.
Vraiment, les twists, je les avais vus aussi, donc ça m'a saoulé.
On va terminer avec Martin et Clément, qui ne sont pas encore exprimés. Martin, je vais te laisser parler. Ensuite, on va terminer sur la bonne note pour, avec Clémence, comme ça. Voilà.
Vas-y, Martin. Bon, je vous rejoins sur le côté trop complexe du film. Enfin, en tout cas, moi, il y a plein de trucs que j'ai pas compris, mais j'ai plutôt de l'autocritique parce que, bon, voilà, sur le coup, je me suis dit, bah, t'es un peu te bête, t'as pas tout compris. Mais
oui,
c'est vrai
oui,
que.
Oui, c'est vrai que tu passes. Moi, pareil, c'est ce que je disais à Clément et Johanna en sortant, c'est putain, mais en fait, je suis con.
Ouais, je me suis dit ça un peu. Mais faut dire qu'il y a Enfin, moi, j'ai toujours eu du problème avec ça, mais il y a vraiment énormément de personnages, énormément de noms. Et d'ailleurs, je pense qu'il en a conscience parce qu'à la fin, il y a dans une scène de fin, quand ils refont une sorte de résumé de tout ce qui s'est passé. Un des trucs, et je vais en citer plusieurs lourdingues, c'est à chaque nom, t'as un plan sur la personne en question. Il dit, eh oui, parce qu'il y avait Donovan, il dit, ah, un plan sur Donovan, oui. Hein. Donc je me suis dit, ok, le mec, il sait que son histoire, elle est compliquée pour qu'il rappelle au spectateur le visage de chaque. Bon, bref. Moi, je me suis perdu dans l'histoire, effectivement, j'ai rien compris aux histoires de procès et j'ai pas trop compris la fameuse vanne centrale. Bref. Donc je vous rejoins sur ça, sur le côté trop complexe, mais c'est peut-être inhérent au fait que cette histoire comporte énormément de personnes. Mais ce qui m'a dérangé, ouais, il y a plein de. Point lourdingue, alors un point qu'on n'a pas soulevé, mais en fait j'ai eu une allergie à la musique en fait.
Ouais, putain, pareil.
C'est-à-dire qu'à un moment mon oreille elle a fait oh putain il y a encore de la musique. Oh, et en fait quand j'ai remarqué ça, il y a de la musique non-stop sur tous les dialogues. Tu te dis ok donc le film est si faible qu'il ait besoin sur chaque truc d'appuyer, c'est-à-dire que tout est appuyé par de la musique. Alors c'est peut-être le cas dans d'autres films mais je l'ai pas remarqué, mais là je l'ai remarqué.
Et oui. Pareil.
Et oui.
Hein
Dunkerque. C'est tout le temps le cas.
Ah ouais.
Et c'est pour ça qu'on a apprécié le moment où la bombe explose parce que c'est le seul moment.
Oui, il y a du silence.
Oui. Donc ça c'est un des trucs lourdingues. Autre truc qui m'a dérangé en fait, bah, le casting. Bon, c'est-à-dire pourquoi prendre Rami Malek pour jouer 2 minutes en fait. Pourquoi prendre autant de stars? Bon, ça m'a saoulé, je trouve ça lourdingue aussi. Et sur d'autres détails, c'est des trucs, des clichés, surtout sur les films, pas forcément de procès, mais c'est la scène par exemple, c'est un détail, mais c'est assez représentatif de ce qui m'a dérangé dans le film. Quand Emily Blunt, à la fin, témoigne, et qu'au début, elle se fait démonter. On croit qu'elle est toute faible et qu'elle se fait démonter. Et on voit venir à 1000 km le retournement, et c'est des situations qu'on a vues 1000 fois, et j'ai fait lourdingue encore. Voilà, en gros, trop de trucs lourdingues dans ce film.
Lourd, quoi.
Lourd. Bon, juste le point positif, enfin le seul point positif, contrairement à, je crois, à Clément, j'ai bien aimé la scène où il est face aux étudiants et il a une sorte de, voilà, de trouble, ouais. Et les visions du public.
Moi aussi, j'ai kiffé,
comme
mais...
moi, bravo.
Non, mais moi aussi, j'ai aimé, mais j'ai l'impression qu'il ne va pas au bout. Enfin, je me suis dit, ah là, c'est bien, tu vois, mais c'est comme s'il me tendait une petite brioche à manger et que je peux croquer qu'à la moitié. Et je lui fais, frérot, laisse-moi plus. Et non.
J'adore la métaphore.
Voilà. Moi aussi.
Métaphore brioche, prenez-la, je vous la donne. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a des moments de mise en scène où tu dis, ah, là, tu vas quelque part et on n'est plus sur du chant contre chant avec du dialogue et des noms à rallonge. Et en fait, non, pas vraiment. Enfin, je sais pas, il manque.
Je veux juste parler de ça parce que pour moi, ça, c'est technique. C'est-à-dire que là, Nolan, pour moi, il a un problème depuis 2 films, c'est l'IMAX. Et vraiment, je trouve qu'il se met une contrainte pas possible avec l'IMAX. Moi, je trouve, contrairement à Kevin, c'est un bon metteur en scène et que. Très souvent, il fait des choses qui sont très visuelles. Et je me rappelle de plein de plans dans sa filmographie, dans ses films. Là, à part la bombe, il me reste quasiment rien. Pourquoi ? Parce qu'il est avec ses caméras IMAX, donc il filme en 70 mm, qui sont hyper lourdes. Et en fait, j'ai vu des photos de making-of. Son chef-op, il a une caméra énorme sur les épaules. Et en fait, il est obligé de faire des champs contre champs statiques tout le temps. Parce que ces putains de caméras, ok, c'est très bien, ça filme sur grand format et tout. Mais c'est pas mobile. Et donc, il peut jamais être à l'épaule. Il peut jamais faire du suivi de comédiens dans un couloir, des plans un peu dynamiques. Et moi, je trouve que ça insuffle et à Tenet et à ce film-là. Mais Tenet, c'était un film d'action. Donc, c'est moins gênant parce que dans la narration, il y a quelque chose qui bouge plus. Mais là, c'est un film de procès, un film de dialogue, un film de scientifique. Je trouve que ça rend tout chiantissime parce qu'il est obligé de faire des champs contre champs fixes pour absolument tout et il n'a pas de machinerie en fait pour donner un peu de rythme à son image et à ses plans et je pense que ça vient de l'IMAX et honnêtement ce film là je ne comprends pas pourquoi il l'a fait en IMAX à part la scène de la bombe qui est dans le désert qui est hyper impressionnante et tout mais si c'est pour filmer des gens dans un bureau prends des caméras transportables mobiles et fais des choses bouge avec ta caméra ça alourdit énormément la mise en scène je trouve et ça je pense qu'il peut totalement le régler sur son prochain film. Il faut juste qu'il arrête avec l'IMAX.
Ouais, ou
quoi.
Bien, je sais pas, mets-nous un mec par exemple dans un camion avec des maquettes qui nous explique ce qui se passe quoi. Avec des bruitages et tout.
C'est quoi ça ?
On pourrait l'appeler Jamie.
Avec des petits Playmobil.
Ce serait bien. Pourquoi la bombe elle explose ?
Je veux entendre Clémence.
Clémence, oui, pour terminer, le grand débat du Versus.
Non, moi je reste sur mon avis, c'est qu'en fait c'est une question de ressenti, alors c'est sûrement subjectif, je sais pas si le sujet du film a fait que finalement ça m'a beaucoup plu, je m'y attendais pas, mais dès le début en fait c'est une sorte de construction, caractérisation de personnages liés à tout ce domaine scientifique, et notamment au fait de nommer des éminences, des gens qui sont passés avant et tout, bah, ça m'a tout de suite happé pour le coup, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que je trouve que le film, par son mélange entre de la recherche scientifique ultra importante pour une avancée mais qui va changer le destin du monde, plus une ambiance politique de guerre et ensuite pendant la guerre froide de suspicion et tout et de méfiance les uns vis-à-vis des autres, bah, le mélange de ces deux choses pour moi en font un film très ludique en fait, presque un peu Cluedo je trouve, parce que même s'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de noms et tout, et ben je trouve que, je sais pas, il y a un truc quand même dans la mise en scène qui m'a fait ressentir en permanence que même dans des huis clos, dans des salles de fac ou dans les salles du fort, enfin de l'endroit qui y construit ou quoi, c'est toujours assez important d'être vigilant à qui est dans la pièce, ce qu'ils sont en train de dire, comment ils sont en train d'avancer sur leur projet, est-ce qu'il y a peut-être un espion, et d'y réfléchir. Et je trouve que la manière dont le film est narré et éclaté et tout te fait être un peu vigilant à tout ça. Enfin, je sais pas, moi ça m'a bien happé en mode ah ouais, il le dit assez vite qu'il y a peut-être quelqu'un qui a parlé pour les soviets et tout, donc du coup je me posais vraiment la question quand il parle avec le général, avec Matt Damon, bah tu sens à chaque fois que c'est vraiment plein de tensions parce qu'ils sont vraiment de deux domaines différents quoi, l'armée et le domaine scientifique, et ils se comprennent et à la fois non, et il y a plein de choses auxquelles Oppenheimer est vachement un électron libre en fait par rapport à tous les process qui devraient être mis en œuvre et tout, et enfin je trouve que tout ça est hyper bien raconté en fait, ça m'a vachement plu, et c'est ce qui fait peut-être que j'ai retenu quand même vachement bien les personnages, contrairement à ce que vous dites, mais c'est très personnel, j'étais pas perdue du tout, et même par rapport à l'aspect scientifique, bah en fait j'ai limite l'impression que ça m'a appris des choses, c'est-à-dire que moi je crois que je faisais pas vraiment la différence entre bombe A et bombe H, donc c'est vous dire mon niveau de base sur le sujet.
Pareil,
bah hein. En fait là le film il m'a vraiment fait comprendre, mais vraiment, enfin je me suis dit ah, et ça m'a fait trop plaisir, je me suis dit ah ouais, ok, je comprends
cette différence.
Non, voilà, voir si c'était la bombe A. Exposé. Et puis après en plus ils utilisent des termes, tu vois, c'est peut-être romancé, mais en tout cas c'est bien fait, le côté parler de super bombe pour la bombe H, donc tu comprends tout de suite que c'est pas le truc qu'ils vont faire tout de suite, mais que c'est bien plus dangereux encore. Je sais pas, le principe de remplir leur vase de verre là avec les billes, enfin je sais pas, je trouve qu'il y a des trucs qui sont quand même vraiment imagés, qui t'aident énormément, et que, enfin vraiment j'étais jamais perdue, et ça je m'y attendais pas parce que j'ai été complètement énervée de bout en bout durant Tenet l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Nolan il peut me perdre de ouf quand je regarde Inception, je suis en PLS et tout. Mais
c'est
là,
vrai, j'ai vu.
Vraiment, j'étais prise dans le truc avec la sensation qu'il n'y avait pas vraiment d'incohérence, qu'il n'y avait pas vraiment de zone de flou, que tout se tenait bien. Alors évidemment, le film, il n'est pas parfait, il a des défauts. Je suis d'accord avec vous sur le personnage féminin, je suis d'accord avec vous sur le personnage de Lewis Strauss, parce que bah, c'est vrai qu'il est beaucoup moins construit et c'est un peu idiot en fait, l'enjeu qu'a ce personnage. Enfin, en tout cas, c'est pas le truc le mieux mené. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que le personnage d'Oppenheimer, il a une vraie évolution. On change un peu de regard sur lui au fil du film. On le voit, lui, changer d'avis un peu trop tard. Et on voit du coup ce qu'il a engendré, quoi. Et je trouve que vraiment le sujet à ce niveau-là est ultra bien traité, quoi. Le poids de la culpabilité, l'importance dans un domaine scientifique de vouloir être quelqu'un qui provoque une avancée et qui met son nom dessus, et du coup l'importance à l'inverse de vouloir rester crédible et légitime, donc d'où l'enjeu pour lui aussi, ce truc qui est mené contre lui après, enfin c'est voilà, c'est ironique pour lui. Et vraiment la fin, je terminerai sur ça, la toute fin, ce truc là, ces mots qu'ils échangent avec Einstein, bah moi ça m'a un peu bouleversée, quoi. Enfin vraiment pour moi ça résumait bien le propos du film aussi, qui était de dire que voilà, quelque chose avait été mis en marche, et que de toute façon au-delà de tout ce qui est développé dans le film, bombe H créée ou pas créée, lancée ou pas lancée, avec la théorie de la relativité, puis ces recherches-là pendant la Seconde Guerre mondiale, bah, y a quelque chose qui a été enclenché, le bouton, on a appuyé dessus sans même le savoir, en fait. Quoi qu'il arrive, on créera un truc, on l'utilisera, quoi.
Ça, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai que c'est quand même bien ressenti à certains moments, mais malheureusement, c'est pas assez, pour moi, exploité, mais c'est quand même, tu le ressens. Donc, c'est déjà là, au moins. C'est vrai, cette idée de jouer avec le feu, quoi. De voir des mecs qui ont créé le mal et qui essayent de s'en défaire, mais en même temps qui veulent aussi participer au progrès de la science et tout, et puis on leur enlève on leur enlève ça pour aller faire la guerre et tuer des gens, tout simplement. Mmh.
Il y a,
ça
y
aussi
y a une
truc,
scène
quoi.
Qui est assez symptomatique, c'est quand il va voir le président. Enfin, j'ai trouvé la scène ratée, hein, personnellement.
Ah ouais. Moi, j'ai bien aimé.
Mais ah
par,
oui,
contre,
Gary Oldman,
par contre, j'ai aimé
ah
le propos de dire... quand il dit à Oppenheimer, en gros, ta gueule, toi, t'as peut-être créé la bombe, mais genre, t'es personne pour les gens pour qui on l'a lancée. Ouais. Ils vont retenir que c'est moi le président qui a appuyé sur le bouton, quoi.
Puis ouais, il y a des scènes qui font froid dans le dos, notamment quand ils choisissent les villes. Il y en a un qui dit non, ah pas ouais. Kyoto, parce que ouais. J'y suis allé avec ma femme et tout. Tu ouais. Vois, ça, c'est ce côté-là, mais c'est pas, voilà, c'est simplement au détour de 3-4 couloirs qu'emprunte Oppenheimer pendant 3 heures de film, tu vois, c'est... Et... Bah bon. Mais en tout cas, voilà, je suis content que vous ayez pu...
J'ai trouvé aussi un moment un peu anecdotique, mais hyper glaçant, avec Cassie Affleck en mec de l'armée là, qui ouais. Veut absolument dénicher les cocos et tout. Franchement, il m'a fait... J'ai trouvé ouais, hyper bien choisi ouais. Dans ce rôle, on le voit très peu, mais la manière dont le personnage est amené et tout, je trouvais que la scène était ultra intense. Voilà.
Clément, je te laisse une phrase pour conclure.
Non, pas pour conclure, s'il te plaît, mais...
Bah si, parce qu'enfin, on va passer à la presse.
Je veux juste dire un truc, c'est que pour moi, tu peux pas faire ce film sans montrer les conséquences de la bombe. C'est, pour moi, c'est un contresens, et je sais que là, je suis en train de parler d'un film qui n'existe pas, mais pour moi, scénaristiquement, ce qu'il fait, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que, au lieu de me montrer le procès de ce mec, qui est objectivement, je trouve, pas très intéressant, montre-moi ce que cette bombe a créé chez les gens, dans le monde, même si, pour garder le point de vue, tu peux montrer une image de lui qui regarde des vidéos de Hiroshima et Nagasaki, mais en fait, je trouve qu'il y a un déni de l'émotion et de comment dire, presque la responsabilité qui me gêne beaucoup. C'est-à-dire que tu as une énorme scène de liesse quand ils finissent de créer la bombe atomique. Et je comprends, c'est les scientifiques, ils ont accompli leur objectif. Bon, ok, mais pour moi, tu peux pas montrer cette scène de liesse sans montrer le contraste après avec ce que ça va créer dans le monde. Ça a tué plus de 200 000 personnes.
Mais il le fait, hein. Tu non, sais, c'est pas premier pas. Degré. Moi, pour ah, moi, non, quand non, il montre cette liesse, non. Il a quand même pour lui en tant que réel un discours sur voyez comme c'est cruel.
Pas, enfin, c'est là qu'il fait sa crise d'angoisse.
Je l'ai pas du tout senti parce que pour moi, c'est pas visuel, encore une fois. C'est-à-dire que c'est pas illustré par des images et il me manque vraiment quelque chose, une évocation visuel de Hiroshima et Nagasaki dans ce film. Et j'aurais même fini le film dessus, parce que c'est ça en vrai qui s'est passé. Cette bombe, elle a tué des centaines de milliers de civils, et on en est presque à se réjouir du fait qu'il l'ait créé dans le film. Et moi, ça m'a énormément dérangé d'un point de vue scénaristique. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un peu plus d'évocation de ce qui s'est passé après, et qu'on reste purement chez les Américains, alors que Nolan n'est pas américain. Je comprends pas pourquoi
je suis pas du tout d'accord avec toi. Il finit son film comme ça, en évoquant ça. Alors certes, il montre pas des images d'archives, des villes détruites et des cadavres.
C'est encore parlé.
Mais il te montre la planète qui est en train de s'enflammer. Enfin, pour moi, c'est quand même aussi symbolique.
Pour moi, il le montre pas. Il le parle. Et c'est le gros problème de ce film.
Bah oui, mais moi j'ai ressenti
chaud
dans vrai angoisse.
Je le connais pas. C'est que tel, tu vois.
Après, peut-être pour conclure, on va conclure.
Est-ce que je peux dire?
On va jamais s'en sortir. Vas-y, Kevin.
Non, c'est juste parce que ce que tu dis, ça me fait penser à un truc. Moi, je pense. Et après, voilà, ça, il peut y avoir des débats là-dessus, mais moi, j'ai l'impression que c'est juste par pudeur qu'il le montre pas.
Mais il faut pas de la pudeur pour ce sujet. Il faut avoir des couilles et il faut dire voilà. Non, mais c'est vrai. Et quand tu vois les bombes s'éloigner dans les camions, et ben après, vas-y, on va aller au Japon, putain. C'est ça que ça a fait.
Oui, mais
en vrai.
C'est un mec qui a fait des films où on n'a jamais vu une flaque de sang. Donc bon,
je suis d'accord avec toi, mais j'aurais aimé que sur ce sujet-là, voilà, il se mouille un peu plus et que, ok, on sorte peut-être 2 minutes du point de vue de Oppenheimer ou 5 minutes et qu'on ait des images du putain de génocide mondial que ça a créé.
Après, si tu veux voir les conséquences à la longue, est-ce qu'il suffit pas juste d'allumer BFM TV ou autre journaux en continu.
Oui, je m'en fous, je parle du film.
Oui, mais
pour moi, il n'en fait rien de cette bombe, en fait, de l'utilisation de cette bombe. Ça m'a terriblement dérangé, mais voilà, c'est pas dans le film, donc c'est difficile de critiquer un truc qui n'est pas dans le film. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'il ait le courage d'en parler et de l'évoquer visuellement, et je trouve que ça reste très... Oulala, j'ai fait un truc très grave, ouais, mais montre ce qu'il a fait de grave, en fait, tu vois.
Moi, je trouve que ça ressort dans les yeux de Cillian Murphy et dans sa...
Oui, il le joue bien, mais voilà, pour moi, ça m'a
Et puis surtout, son angle, c'est de montrer à quel point les Américains n'ont rien à foutre, justement. Mais c'est justement une sorte de propos. C'est de dire qu'eux, ils sont en train de se faire une chasse aux sorcières personnelle de leur côté. Et dans l'interrogatoire vis-à-vis d'Oppenheimer, dire « Ah oui, alors, vous étiez contre ou pour ? Vous étiez contre ou pour ?» Ça devient absolument absurde, en fait, parce qu'il il les a aidés dans la guerre. Et puis derrière, il lui reproche d'être contre, d'aller plus loin, etc. Et là, tu vois à quel point c'est... cruel, enfin c'est inhumain en fait le fait qu'il n'y a aucune conscience là où ils sont de la réalité de ce que c'est.
Eh ben sacré du débat, c'est pas ça ce qu'il y a de plus beau dans le cinéma, moi j'aime bien. Voilà, je vous le dis tout de suite, j'aime bien. Ça parle beaucoup sur Barbie, ça parle beaucoup sur Oppenheimer. En même temps, c'était les deux films peut-être les plus attendus de l'année, hein, pour beaucoup. On va passer à la revue de presse rapidement parce qu'on s'est beaucoup étalé, oui, nous, sur les deux films. Que disent les journalistes? Oulala, je suis curieux de le savoir et de voir qui a gagné parmi eux. Et ensuite, on verra qui a gagné parmi nous, même si on a déjà un peu deviné.
La revue de presse, Kevin. Oui, la revue de presse. Alors, Barbie, Oppenheimer, qui a gagné dans le cœur de nos amis journalistes? Qui a gagné, d'après vous, qui a gagné?
Alors, moi, je peux déjà dire qu'au box-office, il y en a une qui a gagné.
Oui.
Il faut savoir que Barbie a déjà dépassé, à l'heure où on parle, on est à quoi?
Plus de 500 millions.
Oui, mais on a vu le film il y a combien de temps? Il y a 10 jours, ouais. 12 jours, un truc comme ça. Le film a déjà dépassé les 700 millions de dollars et devrait facilement atteindre les milliards de dollars au bout de 3 semaines d'exploitation. Tandis que chez Oppenheimer, ça vient de tomber, c'est 400 millions de dollars. Donc c'est quand même des bons chiffres. Hein.
Mais Oppenheimer, il a eu des problèmes en Inde d'ailleurs. Les gens ont été outrés, le parti conservateur, par la scène de sexe avec Piu Piu.
Oui, ils disent du sanskrit.
Ils disent du sanskrit parce que c'est des textes sacrés, au fait.
Oui. Okay.
Du coup, il y a un hashtag boycott Oppenheimer, mais qui marche pas du tout parce que le film cartonne en Inde quand même.
Mais ça, c'était le point box-office.
Les chiffres ne disent pas tout.
Alors, pour Rotten Tomatoes, nous avons un match 89 contre 94.
Wouh.
Qui a quoi, d'après vous?
Mais moi, je sais, donc je me tais.
Toi, tu sais déjà.
Bah, j'imagine que tu vas nous surprendre. Et du coup, c'est l'inverse. 89, c'est Barbie et 94,
non,
c'est Oppenheimer.
Barbie, c'est 94.
Et Romain a raison, c'est Barbie qui a 89, Oppenheimer 94. Victoire d'Oppenheimer dans le cœur des tomates.
Barbie est plus pourri qu'Oppenheimer.
Metacritic, nous avons 88 contre 80.
Oh, pareil.
Eh ben oui, c'est pareil. Victoire d'Oppenheimer encore une fois. Et Allociné, 3,5 contre 3,8.
Ça, c'est pas haut quand même.
Ouais, c'est pas. Ils sont sévères.
Moi, je 3,8 pour Barbie.
Non, l'inverse toujours. Putain.
Et c'est Oppenheimer qui a gagné encore une fois. Il faut.
3,5 pour Barbie, mais sérieux.
Parce que qui a le temps d'aller mettre des commentaires vénères?
Mais moi, j'ai vu des.
Les gens vénères.
Ça dit long sur les gens qui sont.
C'est ça.
J'ai vu des commentaires, mais complètement hors sol, de masculinistes virils qui étaient en mode ouais, le film, on n'est pas la cible.
Mais là, on est que sur.
Oui.
Bah
oui,
effectivement, t'es pas la cible.
Enfin, je veux dire,
là, on est que sur la presse. Attention, c'est pas les commentaires des gens lambda comme toi et moi.
Je vais dire un truc cruel, c'est un peu pareil avec la presse.
Ouais,
oui, mais ils sont payés.
Bah après, 3,8 pour halluciner, ça reste quand même une très bonne note.
Et du coup, revue de presse, je n'ai pris que 4 journaux, mais j'ai pris l'avis pour les deux films, pour chaque journal. J'ai pas pris l'avis, je n'ai pas pris la croix. J'ai commencé par Libération.
Est-ce qu'il faut qu'on devine c'est la critique de quoi?
Non, parce que souvent, c'est cité très vite. Donc,
il y a les acteurs.
Ça n'aurait pas de sens. Par exemple, ça commence par Greta Gerwig.
Barbie.
Greta Gerwig avait la mission quasi impossible de dépoussiérer le jouet ringard de Mattel. Malgré un marketing franchement tyrannique, Paris réussit pour cette satire du charme qui ne se laisse pas dévorer par ses paradoxes. Merci Libé.
Satire du charme?
De charme. Ah. J'ai peut-être fourché. Pour Oppenheimer, à chaque fois que la vitesse de défilement des scènes et des sauts temporels ralentit, ça saute aux yeux. Nolan complique, perturbe, contraint pour rien si ce n'est peinturlurée du vernis une histoire simpliste, ennuyeuse et idiote. Et si sa volonté est effectivement celle naturaliste d'embrasser la multitude de l'homme qu'il raconte, l'échec est cuisant puisqu'Oppenheimer ne nous en fait rien voir, nous trouble la vision pour nous faire passer à côté de tout.
Ah, ça va dans ton sens, Romain, trouble la vision.
Ouais.
Ouais, je suis d'accord.
Migraine ophtalmique.
JB n'a donc pas aimé du tout Oppenheimer.
Mais j'ai l'impression qu'il y avait une critique très similaire dans Tenet qui disait que le film était idiot.
Tenet est idiot.
Parce que pour le coup, je trouve ça un peu dur de dire que le film est idiot, mais bon.
Là, pour Oppenheimer, non, mais pour Tenet, je comprends.
Le film, moi en tout cas, j'ai cru que j'étais con en sortant, quoi. Je me suis dit, mais je suis con, quoi.
Ouais, moi je suis idiot.
Ça fait deux fois quand même de suite pour Nolan, où je sors, où je fais, mais c'est moi.
Mais je pense que ça, c'est une question d'implication, parce que tu vois.
Romain, tu n'es pas idiot, j'aurais jamais compris la théorie de la relativité sans toi.
Explique-la nous.
C'est quoi la connerie?
Rapidement.
Ah, ok, je croyais
que j'essaie de te booster.
Je croyais qu'un jour je t'avais expliqué, alors que même moi je la comprends pas.
C'est positive power.
Exactement, critique suivante.
Et bah, c'est écran large. Ils ont aimé les deux. Donc tout va bien. On va commencer par Barbie. Là où la grande aventure Lego prenait une forme de libération au travers des briques danoises et de l'imagination qu'elle libère, Barbie prend à bras le corps l'hypocrisie d'un progressisme masqué derrière sa dimension capitaliste. Cela n'enlève en rien sa raison d'être, mais la cinéaste constate de quelle façon les combats actuels contre l'inégalité sont transformés en appel à la consommation, au sein même d'une œuvre qui se doit de rapporter de l'argent à ses investisseurs. En conclusion, derrière la fable féministe et l'autocritique bien huilée de la marque, Greta Gerwig parvient à faire gripper la machine et embrasse les contradictions de cet étrange projet. Barbie interroge un progressisme parasité par sa récupération libérale et consumériste, sans pour autant baisser les bras. Un objet pop plus complexe s'il n'y paraît, sublimé par ses acteurs.
Bon, ben, tout d'accord. Rien à dire. Je partage entièrement ce que dit Écran Large.
On est souvent d'accord avec Écran Large. Hein.
C'est vrai.
On les embrasse.
Ben,
c'est Geoffrey Crété.
Je sais plus.
Ça balance des blagues.
C'est clair.
Non, c'est Jojo.
T'as les crampes.
Bravo Jojo.
C'est la même génération que nous. C'est pour ça aussi.
C'est vrai. Ils ont 22 ans, comme nous.
Non. Ils se sont des trentenaires.
Oppenheimer. Si Oppenheimer démarre comme un biopic possiblement classique, il se transforme ainsi assez rapidement. Derrière la fresque historique incroyablement riche, on jongle en permanence entre le film de guerre, le film de casse, le film d'aventure, voire le western, lors des sublimes passages à chevaux dans les plaines du Nouveau-Mexique. Cheval, symbole viril, on le rappelle.
30 secondes en tout du film.
Oui, il y a des chevaux.
Avec Emily Blunt, il se balade à un moment.
Oui, il se balade à cheval à un moment. Et après, il pleure à côté de
Après, il s'embrasse et puis après, elle divorce.
Et après, elle va le récupérer en train de pleurer
après,
comme une merde au même endroit.
Et après, elle en a marre d'avoir un gosse. Du coup, il donne le gosse à quelqu'un d'autre et il va construire une bombe. Putain, le film résumé.
Mais plus encore, Nolan fissure le genre de biopic en réalisant une course contre la montre intense dans la guerre contre les nazis et surtout un thriller psychologique miant en véritable labyrinthe introspectif à la fois cauchemardesque et lyrique. Christopher Nolan et son chef opérateur Hoyt von Hoytema relèvent. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs. Relève en effet un défi exceptionnel avec Oppenheimer, réaliser une épopée intime avec de l'IMAX, soit les plus grosses caméras du monde. Un choix culotté qui vient pleinement ancrer le spectateur dans l'histoire et l'univers du film, la caméra scrutant avec une intensité croissante et une qualité folle les visages de sa galerie de personnages, dont Oppenheimer.
Oui, c'est vrai qu'Écran Large, ils ont fait tout un article sur le choix judicieux, selon eux, d'utiliser l'IMAX pour faire du gros plan. Sur des visages.
Comme quoi, des fois, on n'est pas d'accord.
Mais comme le nom l'indique, ils aiment ce qui est large.
C'est ça. Donc, exactement.
Ils ne nous mentent pas.
Plus l'écran est large pour eux, mieux
c'est. Mieux
c'est. Ça va de soi.
Ça me rappelle un autre journal qui ne parle que de minéraux.
Je ne pensais pas aussi.
C'est super large.
J'adhère.
Bon. Criticat, le journal des chats. On ne pouvait pas passer sans la vie des chats. Alors, les chats, compensaient les chats de Barbie. L'opération pourrait être passionnante si elle ne butait pas sur un double problème qui vient mettre à mal ses promesses. D'abord, et c'est presque le plus gênant, le film n'est pas très drôle. Entre gags mécaniques, clins d'œil à tire-larigot et acteurs confinés dans des partitions trop familières. Ensuite, Gerwig mobilise pour contrer le patriarco-capitalisme, tirant les fils de la figurine, une imagerie elle aussi publicitaire. Le serpent se mord la queue. D'un côté, le film assume dans la dernière ligne droite qu'il cherche à remplacer l'image du jouet par un autre, soit la définition d'une stratégie habituelle des publicitaires, le rebranding. De l'autre, il mobilise à ses fins une forme également normée pour mettre en tube son émotion et ses propos.
Oui. Mais je préférais...
Les chats n'ont pas aimé Barbie.
Ouais, non, ils n'ont pas aimé.
De toute façon, si vous avez vu un chat et une Barbie, vous savez que les chats démontent les Barbies très souvent.
C'est ça, c'est vrai.
Il y a un chien.
Il y a un chien, mais pas de chat.
D'où
les chats contents... Qu'est-ce que les chats pensent de Oppenheimer?
Pareil, pas beaucoup de chats, à part celui de Schrödinger. Mais...
Et on ne sait même pas dans quel état il est.
C'est pas...
Si Nolan envisage son film comme un feuilleté complexe pour explorer les abîmes d'une personnalité rétorse, il déplie en réalité des scènes d'une lourdeur abyssale quand elles ne sont pas platement explicatives. Nolan n'est pas un grand cinéaste, mais ses films sont souvent, de par leur architecture fondée sur des concepts narratifs, stimulants ou curieux, à défaut d'être accomplis. Leur sérieux est comme compensé par une inspiration ludique, ici absente, dommage, car sans elle, le style de Nolan n'est plus qu'assommant.
Ils sont durs les chats,
ouais.
Moi je me sens très chat sur ce qu'ils ont dit.
Ça fait un moment qu'ils
n'aiment
pas grand chose.
Voilà, faudrait faire un compte rendu des critiques de Criticat parce que je sais pas sur quoi ils sont.
Bah, il y avait pas de billard, pas de pétard, donc.
Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont pas.
Peut-être
ils
sont en eau très profonde.
Ils sont un peu bougons ces temps-ci.
Ils bougonnent.
Ouais.
Et on va finir avec JQ.
Waouh.
Je m'attendais pas. Pardon.
Moi j'aime bien
Kylian Murphy est trop beau.
Moi j'aime bien quand tu cites Voici, mais ça fait longtemps que tu l'as pas.
Ryan Gosling est encore plus beau.
Je me suis dit Barbie Oppenheimer JQ, faut y aller. Que pense JQ de Barbie? Rarement un blockbuster n'aura occupé à ce point l'espace médiatique et culturel, mettant toutes ses forces à éteindre l'éventualité d'être dépassé par son adversaire lors du premier week-end du box-office américain. J'ai nommé Oppenheimer de Christopher Nolan.
Quel duel.
C'est un soulagement de voir que Greta Gerwig, passée de coqueluche du cinéma indépendant américain à réalisatrice adoubée à Hollywood, a réussi à garder ce qui a fait l'excentricité de son cinéma au milieu d'une redoutable machine commerciale. Sa Barbie est un peu tout ce qu'on en attendait qu'elle soit, résolument pop, évidemment ironique, étonnamment angoissée.
Trop bien.
C'est trop bien, mais pardon, je le dirai après, hors antenne.
Bah non, dis maintenant.
Non,
maintenant.
Résolument chocolat, vous connaissez pas ce truc? Je vous montre après, c'est une vidéo de Castelo Lopez.
Pour ceux qui
ah oui, non, je vois. David Castelo Lopez qu'on embrasse. Parce qu'on aime bien.
Je veux du sang.
L'amour du sang. Mais Oppenheimer. Christopher Nolan orchestre avec sa monteuse Jennifer Lame un impressionnant récit dédaléen où chaque moment, même les plus éloignés, entre en écho, s'interpénètre et tente de percer à jour le secret de ce physicien devenu la figure nébuleuse d'une humanité de plus en plus tentée par son autodestruction. Plus que la course contre la montre pour l'arme atomique engagée par l'Amérique contre l'Allemagne nazie, c'est le regard ambigu que Christopher Nolan porte sur Robert Oppenheimer qui passionne. Difficile de ne pas voir derrière le visage de Robert Oppenheimer, héros nolanien par excellence dans sa difficulté à garder le contrôle sur le pouvoir dont il a été investi, une lecture plus méta de l'artiste luttant pour imposer sa vision, aussi austère et ténébreuse puisse-t-elle paraître, face à l'emprise des studios et leur détermination à neutraliser toute vision qui serait perçue comme incommode pour le spectateur.
Je croyais que t'allais dire face à l'emprise des stupéfiants.
Ouais.
Face à l'emprise de la drogue. Et voilà pour la revue de presse.
Ça reste, mine de rien, quand même assez équilibré.
Carrément,
oui, j'ai essayé
ouais.
de prendre des journaux, c'était équilibré. Parce qu'il y en a qui n'ont rien aimé, d'autres qui ont tout
ouais.
aimé.
Mais je pense qu'il y en a certains, ils se sont dit, putain, je peux pas mettre plus la Barbie qu'à Oppenheimer. Donc ouais. ils ont baissé la note de Barbie.
Ouais.
Peut-être.
Comme
et puis peut-être que
les femmes.
Puis il y a des misogynes aussi dans tout ça, hein, pas se mentir. Hein. Moi j'ai vu des critiques, c'était peut-être pas la presse, mais de gens qui sont complètement frère. Si tu veux vivre ce que tu penses dans ta tête, retourne au Moyen Âge, quoi. Enfin c'est, enfin il y a des trucs hallucinants, quoi. Genre en mode comment ça, Barbie, nanan. Je fais bah oui, pourquoi pas en fait.
Sinon t'as aussi le choix de pas aller le regarder.
Exactement.
Et ils ont non, aussi le choix vrai. De fermer leur gueule aussi.
C'est hein. vrai.
Ça ce serait bien hein, si ouais. ils pouvaient tous fermer leur gueule. On vivrait dans un monde.
Si
vous
pouvez au moins rester juste sur Twitter.
Sur Twitter, sur X.
Sur Twitter,
X.
Qui nous laisse tranquille dans la vraie vie.
Bah merci Kevin pour la revue de presse.
Je t'en prie.
Équilibré chez la presse, on va dire. Il y a pas vraiment de vainqueur, mais ici, il va falloir qu'on, bon, même si on le sait déjà un peu, hein, qui a gagné.
Barbie,
parce que c'était peut-être tout simplement le moins barbant.
Barbie, c'est pas barbant.
Voilà. Non, mais c'était un bon moment à voir au cinéma. C'était assez sympa. Peut-être des défauts, voilà, un petit marketing un peu putassier, mais quand même derrière un propos et pas juste du Transformers ou du G.I. Joe comme on a pu en voir, bête et méchant, avec beaucoup de MacGuffin et pas grand-chose à défendre. Alors que là, pour le coup, c'est tout l'inverse. Et c'est intéressant, quoi. Peut-être qu'évidemment, ils vont doubler leur chiffre, Mattel, tu vois, mais bon, au moins...
Franchement, j'ai trop hâte de voir les Oscars, du coup, là, entre les deux films.
Je pense qu'elle peut être nommée Margot Robbie.
Ah, je pense aussi, hein.
Et je pense déjà. Aussi qu'en musique, potentiellement, tu vois, ils
ouais.
vont avoir une chanson.
Une chanson, ouais.
ouais.
Ah oui, ça, on n'a pas dit, mais j'aime trop la chanson de début qui casse le quatrième mur.
Mais
et
oui,
qui interagit,
ouais,
tout
c'est
ça,
excellent.
Enfin, il y a plein d'idées de mise en scène comme ça qui sont trop cool dans le film. Et chez Nolan, malheureusement, qui nous fait du Nolan... Donc c'est bien aussi de voir une personne comme Greta Gerwig qui a débuté il n'y a pas longtemps et qui arrive au sommet hein, un peu, elle a son prime là carrément, tout le monde va se battre pour l'avoir maintenant. Et Nolan bah, qui confirme qu'il est peut-être un bon réal mais qui commence un peu à se caricaturer. En gros voilà, pour résumer un peu notre avis sur Barbie et Oppenheimer. Donc bravo Barbie, on applaudit. Barbie qui a gagné. Voilà. Et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire pour vous qui a gagné. Si vous êtes encore là.
Romain, faisons la paix. Tiens, une écharpe rose.
Oh, merci beaucoup. Magic
fleurs everywhere. Qui volent.
Tiens, Romain, de l'uranium.
L'épisode, c'est génial.
Allez, on va se dire au revoir. Un épisode évidemment plus long parce qu'on a match retourné deux films et c'était houleux comme débat, mais aussi très intéressant. Je l'espère que vous l'avez ressenti comme ça. Allez.
You see, mystery is an intellectual process. But suspense is essentially an emotional.
Voilà, c'était le match retour, la récompense, la sentence, la délibération de notre versus entre Barbie et Oppenheimer, hein, qui est un duel qui a passionné les toiles dernièrement, que ce soit au cinéma ou bien sur les réseaux sociaux. Barbie, Oppenheimer était sur les lèvres de tout le monde. On a fait le tour, on a bien fait le tour. Barbie, grande gagnante, Oppenheimer, deuxième, petit deuxième. La semaine prochaine, nous, on va... Enfin, je dis semaine prochaine, vous avez bien compris que ces derniers temps, il n'y a plus trop de temps. Hein. On est perdu aussi, comme dans Oppenheimer. Où est-ce qu'on est ? On est dans le noir et blanc ou on sait pas. Match retournera un film, franchement, qui a rien à voir. Qui sera beaucoup plus cool du cerveau. Vous inquiétez pas, parce que on plongera en eau trouble. Que dis-je ? Très trouble.
Très trouble.
Très trouble, l'eau. Voilà. Très hâte d'y être.
Avec Jason.
Jason,
Jason.
On a hâte, on vous embrasse tous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Facebook, Twitter. Ah non.
Non, non, non.
On recommence parce que maintenant ça a changé. C'est complètement con. Facebook X et Instagram, sonorité nulle, j'aime pas du tout.
X.
Facebook X.
On dirait
et Instagram.
Qu'on a basculé dans le porn.
Ouais, ça va être ça. Hein.
Retrouvez-nous sur X.
Pas X vidéo, hein. X tout court. Hein. Et puis à très vite. Voilà, au revoir.
Salut.
Au revoir.
Ciao.
Mangez des pommes.
Arrivederci. 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 Arrivederci.